Bonjour à tous, bienvenue sur un nouvel épisode de Comic City. Je suis Steve, je suis avec Monsieur Nebani. Je me suis pas trompé entre la VO et la VF.
Ouais, pour une fois, tiens, c'est bien.
Épisode 51, retour à un épisode plus normal, classique, qui ne sera pas en deux parties, qui ne fera pas 3 heures.
Ouais, et qui n'aura pas de guest star.
Non, pas cette fois. Justement, si on avait des guests à chaque fois, ce serait plus des guests, ce serait des habitués.
Mais un épisode passionnant, avec Second Coming, avec du Marvel Heroes, du Icons, et puis une
Et
librairie
puis
en plus.
une librairie, voilà, une
Voilà.
librairie.
Le plat de résistance.
On commence donc par les news comme d'habitude. Puis bah tiens, je te laisse commencer, Benny.
Par quoi va-t-on commencer? Allez, je sais pas. Alors,
Ça sent
bon.
les mecs qui ont vachement répété
Oui,
avant et tout.
voilà, je sais pas du tout, les news. Déjà, vu sur nos partenaires de Cap Chronicles, comme ça me permet de les placer, la bande-annonce, alors quatrième bande-annonce de Thor, il y en a eu 36 000, quatrième bande-annonce française, je crois, si je
Ouais.
dis pas de bêtises.
Ouais.
Thor, rappelons-le, sort le 27 avril en France, donc c'est très bientôt quand même. Ça fait un peu plus d'un mois, mais oui, un mois et demi, mais bon, quand même quoi, ça s'approche à grands pas.
Et
Alors
je suis toujours pas passionné,
non,
bizarrement.
moi non plus, moi non plus. Et plus il y a de bande-annonces, plus ça me saoule. D'ailleurs, pour ainsi dire, je ne l'ai pas regardée encore, donc ce
Je
serait
l'ai pas
bien que je le
regardé du
fasse.
tout. Je l'ai pas regardé du tout,
Elle
hein.
fait environ 2 minutes, donc on mettra le petit lien qui va bien, hein, puis de toute façon,
Puis je
vous la
pense que
trouverez assez facilement.
si on regarde toutes les bandes annonces d'affilée, on a vu tout le film.
Je pense aussi, puisqu'on avait déjà vu tout le film avec cette fameuse bande-annonce de
La
3 heures,
première, ouais.
qui était même plus long que le film. D'ailleurs, je pense qu'on a même vu des choses qu'on ne verra pas dans le film. Je pense qu'on a vu le director's cut avec la bande-annonce qu'ils avaient passée à l'époque, il y a tellement
Quelques
longtemps
mois.
d'ailleurs, que
C'était il y a
c'était
quelques
un peu
mois, ouais.
ridicule. Voilà. Donc, en tout cas, la bande-annonce de Thor est dispo sur Cable Chronicles, ou alors cherchez sur YouTube, vous la trouverez forcément. C'est la dernière en date. Tu m'as montré une bande-annonce juste avant, pour faire la transition avec Thor, d'un autre barbare, enfin plutôt d'un vrai barbare, quoi, puisque Thor, c'est pas vraiment un barbare.
Et quelle bande-annonce!
Et quelle bande-annonce extraordinaire, je n'en reviens pas, ça a crevé l'écran. C'est tellement beau que de toute façon ils ont décidé de faire un film 3D, ce qui est étonnant en ce moment, il y en a tellement peu de films 3D
Tiens, j'avais même pas fait gaffe que c'était en 3D, tu vois.
et voilà, c'est
Preuve que
annoncé au
j'ai
fait.
vachement prêté attention.
Oui, c'est une bande-annonce extraordinaire qu'il faut absolument que vous voyez. On parle pas de Captain America, bien sûr. Captain America, on s'en fout, d'ailleurs vous remarquerez qu'on en parle très peu. Alors on devrait, mais on oublie
Oui,
simplement.
c'est vrai.
Y a trop d'adaptations. Mais je parle bien sûr de la bande-annonce de Conan.
Conan le barbare, avec Jason Momoa,
Voilà.
le fameux Ronan de Stargate Atlantis,
Oui, qui a l'air
qui fait un
parfait.
parfait barbare, hein.
Ça a l'air génial. Ça a l'air génial, le fait que la bande-annonce, il n'y a pas de décor. On voit juste des personnages qui apparaissent dans de la fumée. Et je rigole pas. Enfin, c'est pas une bande-annonce, c'est un teaser. Normalement, ça a pour but de donner envie. Et là, je me disais justement qu'ils auraient mieux fait de pas en faire du tout.
Oui, alors là, je vais reprendre puisque tu es un menteur, tu es un gros menteur. On a même été obligé de retarder l'enregistrement car tu as décidé de t'inscrire sur Facebook pour rejoindre la communauté
Voilà,
de
exactement. Je
Conan le
plaide
barbare.
coupable. Ouais, bien sûr sous un faux pseudo que vous ne retrouverez jamais. Mais j'ai enfin rejoint Facebook puisque j'étais réfractaire et juste pour rejoindre la communauté des barbares. Parce que j'attends ce film avec tellement d'impatience que voilà,
C'est
pour
dingue, j'ai même pas noté la date de sortie.
le moment. Non, moi non plus, bizarrement. Mais ça sort bientôt. Ça sort cet été, je crois.
Ouais, c'est
Si
ça,
je dis
ouais,
pas
c'est
de
cet
bêtises.
été, ouais, c'était dit
Alors ce sera vraiment
avec
le
la grosse voix,
blockbuster de
c'est
l'été.
This Summer.
Oui.
C'est vrai, je m'en
Oui.
rappelle
Enfin,
maintenant.
remarque, en France, un film comme ça,
C'est direct ou
peuvent le décaler
vidéo?
jusqu'en Europe, jusqu'en octobre, j'allais dire.
Non, non, mais
Jusqu'en.
direct ou vidéo, je pense. Ça va être tellement un échec.
Je pense que, franchement, déjà, on a eu du mal à voir The Losers dans des salles de cinéma françaises.
Pareil pour Scott Pilgrim.
Pareil pour Scott Pilgrim, donc là,
Je me
franchement, le
demande.
barbare mérite amplement d'avoir son direct ou DVD.
Je me demande si ce sera pas un direct ou DVD uniquement en import, tu sais.
Et uniquement en direct ou DVD d'ailleurs, même pas en Blu-ray.
Direct en VHS.
Direct, ah ça serait beau de ça, de faire des directs en VHS. Direct à la poubelle aussi.
Je pense que c'est là où ce film va se retrouver.
Bon, justement, alors je parlais de Captain America, des photos circulent sur le net de plus en plus. On attend une bande-annonce officielle, une grande bande-annonce. Il y avait eu une petite bande-annonce, un petit teaser il y a quelques semaines. on attend une plus grande bande-annonce, et en tout cas, récemment, on a pu voir, par exemple, des images de Crâne Rouge, vraiment avec la tête de Crâne Rouge, et c'est super bien fait, sachant que ce sera en plus l'acteur qui joue le fameux agent de Matrix, là,
l'agent Smith.
L'agent Smith, voilà. Oubliez son nom, Weaver.
Ah, moi aussi, j'ai totalement oublié son nom, donc qu'on pouvait voir dans Le Seigneur des Anneaux aussi.
Hugo Weaving, voilà.
Ouais, ça va être ça.
Weaving. Là, ça s'annonce meilleur que pour Thor, quand même.
Oui.
Et puis, bizarrement, ils montent pas de bande-annonce, mais justement, c'est pas plus mal. C'est pas plus mal parce que, voilà, ils jouent un peu plus sur l'attente et donc, bah, voilà. C'est pas X-Men First Class, quoi.
Le film n'est pas prévu pour tout de suite non plus, de toute façon.
Non. Mais attends, si je dis pas de bêtises, c'est quand même pour cette année.
Je crois, ouais, mais il y a encore un peu de temps à venir, quoi. Ils se concentrent sur Thor, c'est normal.
Mmh. Ouais, c'est vrai que c'est la première étape. Mais je crois que Captain America arrive 4 mois après, un truc dans le genre.
Je sais plus du tout. Bon. Honnêtement, je suis tellement peu passionné par les adaptations au cinéma.
Oui, c'est vrai que moi aussi, ça commence à me lasser. On va passer au... Je crois qu'on a fait le tour des cinémas.
Oui, on va passer à la télé.
On va passer à la télé, si tu veux. Oui, d'accord, très bien. Alors, tu me disais, juste avant le podcast, que malheureusement, peut-être, No Ordinary Family, enfin, peut-être même certainement, No Ordinary Family allait disparaître de nos écrans.
La série remporte déjà pas un grand succès auprès du public. Les dernières audiences sont catastrophiques, pour être gentil.
Ouais, elles sont catastrophiques. Alors, pour un titre d'information, donc, première audience, premier épisode, on était à plus de 10 millions de téléspectateurs, aux États-Unis, bien sûr. Deuxième épisode, on a chuté à 8 millions, pratiquement 9 millions, quoi, en fait. 9 millions.
Donc c'était une petite baisse. Bon taux de rétention.
Ouais. Voilà. Ouais. D'environ 2 millions, quand même, entre les deux. Mais là, les derniers épisodes, on est, à 5,23, 5,03, 4,77. Et toi, tu me disais, pour le dernier, 4,03.
Ouais. 4,23, pardon. 4,23. Je crois que 200 000 téléspectateurs, pour eux, ça compte. À ce niveau-là, ça compte.
Voilà, donc vraiment une très 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 grosse chute. La série a déjà été ratiboisée de quelques épisodes, puisque elle n'en compte plus que 20. Donc voilà, donc et c'est vraiment dommage, puisque les séries de super-héros ont vraiment du mal à s'implanter auprès du public. On avait déjà eu le cas de Heroes, qui après une première saison, dont tout le monde avait parlé, qui était vraiment... Enfin, qui faisait l'unanimité quasiment, hein, des critiques. La première saison d'Heroes, des magazines comme Hitbox, on parlait beaucoup à l'époque. Enfin, tous les fans de jeux vidéo, je sais pas pourquoi. Tous les fans de comics étaient vraiment derrière. Et puis après, il y a eu cette saison 2 dramatique et la série s'est vraiment cassée la gueule. Il y a quand même eu 4 saisons, tu me disais, hein, j'en avais même oublié la 4e. Pourtant, Dieu que c'est mauvais quand même.
Oui. je peux pas même pas essayer de sauver le truc. Non, c'est pas possible.
C'est mauvais, quoi. C'est vraiment tombé avec Eden Panthier et toute la clique, quoi. Alors qu'à l'époque c'était des grosses stars, et maintenant c'est vraiment la série qu'on passe, tu sais, limite en la cachant dans les petites chaînes sur le satellite à des heures retardées de la nuit, quoi.
C'est comme le film érotique, quoi.
Oui, là c'est le truc que tu peux regarder, mais sans le dire, quoi, tu vois.
Dès que tu vois que quelqu'un arrive dans la pièce, hop, tu changes de chaîne.
Oui, tu mets à la rigueur le film érotique, ça sera moins con que de regarder Heroes.
C'est clair. Non, voilà. Bon, pour revenir sur No Ordinary Family, la décision n'a pas été encore annoncée officiellement, mais le fait que Michael Shipley se soit engagé pour un pilote pour l'année prochaine avec CBS, donc carrément sur un autre network, puisque No Ordinary Family, c'est sur ABC, ça montre que voilà, l'avenir de la série est déjà... signé, en fait.
Ouais. Ou bien alors, ça montre que Michael Chiklis, dans l'épisode final, va disparaître.
Bah, la série repose quand même pas mal sur lui. C'est quand même entre lui et Julie Benz qui sont les deux grosses stars
de
la série.
C'est vrai.
Si l'un des deux s'en va, à mon avis, il restera pas grand chose de la série. C'est dommage parce que je trouve que la série est relativement sympa. On nous avait promis une série familiale, avec des gens qui ont des super pouvoirs, et c'est exactement ce qu'on nous a donné. Enfin, je vois pas à quoi les gens pouvaient s'attendre d'autre. Enfin, je veux dire, on a un mec comme Greg Berlanti et la production, on sait à quoi s'attendre. Ben non, les gens ont finalement été déçus.
C'est toujours dommage. Peut-être le genre super-héros qui rebute un peu. Parce que les séries familiales fonctionnent aux États-Unis, on le sait hein, quand même. Il y en a énormément, mais là, c'était peut-être l'addition des super-pouvoirs.
Le familial ne fonctionne plus tant que ça, finalement, aux États-Unis. On est loin de l'époque des séries type Gilmore Girls ou autre. C'est vraiment dépassé comme temps, quoi. Je crois que
j'ai dire Arnold et Willy. Je sais pas pourquoi, alors.
Dans le série familiale qui reste, on avait Life Unexpected sur la CW, ça s'est terminé. On avait Parenthood qui continue de survivre sur NBC. Mm-hmm. Mais pour combien de temps?
C'est vrai.
On verra bien.
Mais dans tous les cas, voilà, Michael Chiklis c'est Julie Benz, comme tu dis. Tu aimes bien Julie Benz?
Oui, je trouve
Voilà.
que c'est une très bonne actrice.
Moi aussi. Bon. Et pas que pour ses talents d'actrice. Mais bon, voilà.
Quel chacal.
Non, 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 mais voilà, j'aime beaucoup. Je le dis. Et on passe à la rubrique jeux vidéo avec ça. Ça n'a rien à voir, effectivement. Mais
Tu essaies de
on
te
a.
sortir de ton propre piège que tu t'es tendu
Non,
toi-même.
non, non, mais moi j'assume. On passe à Batman Arkham City, à le jeu tant attendu, qui est vraiment. Alors là, par contre, les bandes annonces claquent. Et une date annoncée pour l'Europe, le 21 octobre. Voilà. Donc il va falloir encore attendre jusqu'au 21 octobre pour pouvoir jouer, pour pouvoir tâter de Batman à nouveau sur console, nouvelle génération, Xbox 360 et PlayStation 3, me semble-t-il. Donc voilà,
Oui.
Batman Arkham City qui sort le 18 octobre aux États-Unis, le 19 en Australie, donc bah, le 21, voilà quoi, c'est vraiment quelques jours après en Europe.
On a eu quelques nouvelles images. On est maintenant assuré de la présence de Catwoman et de Two-Face.
Eh ben tu vois, je les ai même pas vus. Est-ce qu'on les voit dans le trailer correctement ou c'est juste suggéré?
Non, c'est des nouvelles images qui ont été montrées. En fait, apparemment, Catwoman se ferait enlever par Two-Face dans l'histoire. Alors, maintenant, quand va intervenir Hugo Strange dans tout ça? On verra bien. Mais
Oui, bah
ce
de toute
sont
façon,
les...
les jeux maintenant sont des scénarios quand même assez amples, quoi, assez touffus, donc voilà.
L'avenir nous
C'est une
dira
sorte de jeu quand même de
ce que ça va
bonheur.
donner. Ouais, non, c'est clair, ça a l'air d'être vraiment
Ah bah
une
le
grosse
premier,
tuerie.
donc Arkham Asylum était très bien, c'était vraiment une bonne surprise, hein, parce que les jeux Batman, il y en a eu des plus ou moins heureux quand même par le passé.
Il y en a eu surtout un gros paquet.
Il y a eu un gros paquet. Et il y avait le très bon, enfin je trouve, Batman série animée sur Super NES.
Ouais, très très bon.
Le fameux niveau du Grand 8.
Oui.
Ça, c'était le premier niveau d'ailleurs.
Mais il était très très bon.
Non, il était réussi celui-là. J'ai beaucoup aimé. Bref, souvenir, on va passer au review, je pense, non? Est-ce qu'on a fait le tour?
Pour finir, on a des citations de tout cas, de vieux souvenirs de jeux vidéo Batman. Moi, je me rappellerai du Batman sur NES, l'adaptation du film.
Alors ça, par contre, je ne l'ai pas eu, mais j'avais eu
Qui
le.
était quand même relativement difficile.
Et moi, j'avais eu l'adaptation du numéro 2 sur Game Gear. Ouais, qui était pas mal, mais alors le problème, c'est que tu y jouais 10 minutes, parce que c'était bien fait quand même, pour de la Game Gear, et donc tu y jouais 10 minutes, et du coup, la console était déchargée, puisqu'il fallait 6 piles. Voilà. C'est le problème des consoles portables à l'époque, et les jeunes générations ne connaîtront pas ça, au fait. Cette frustration de voir le truc clignoter au bout de 10 minutes de jeu, et tu te dis, ah putain. Mais au moins, tu profitais bien de ton jeu, tu vois, à l'époque, hein, parce que tu mettais un an quand même pour le terminer.
C'est clair, à ce
Si
rythme-là.
t'avais pas la putain de fil là, tu sais, pour que
Le
ce soit
secteur, ouais,
branché sur le
l'adaptateur
secteur, parce que
secteur.
tu devais l'acheter en plus.
Batman, c'est plus fort que toi.
Oui, Batman, c'est plus fort que toi. Je me rappelle, j'avais un pote qui avait la prise pour brancher carrément dans sa voiture, sans doute sur l'allume-cigare ou je ne sais quoi,
Oui,
et
sur
c'était bien utile.
l'allume-cigare.
Ouais. Et voilà, c'était bien utile parce que quand j'étais en voiture, moi, je comptais sur mes piles et j'avais donc 1 kilo de piles. Rechargeable.
À gagner son propre poids en pile.
Non, non, mais sans déconner, j'avais des sacs de piles, et je me rappelle quand les piles étaient vraiment usées, je les mettais dans un autre sac, et c'était très difficile de s'y retrouver.
Toute une technique.
Toute une technique, ouais. Avec la Game Boy et tout. Qui en demandait 4 quand même. Bref, hein, voilà, les vieux souvenirs qui ne sont pas si loin, et c'est terrible parce que le temps passe.
Oui, le temps passe vite. D'ailleurs, le temps passe vite et on va attaquer maintenant les reviews
Ouais, tout de suite,
pour ne
parce qu'en plus,
pas
il y a du lourd. Et on commence.
perdre trop de temps. On commence avec le X-Men hors série numéro 1, nouveau magazine qui fait partie de cette grande vague de relaunch des titres X-Men ce mois-ci chez Panini. Pourquoi on commence par le hors série? Tout simplement parce que bah, c'est le prélude à Second Coming.
Voilà, c'est le retour de Cable et Hope dans notre réalité.
Alors, on a les quatre derniers épisodes de la série Cable. Alors, oui, il y a un 25, on en parlera tout à l'heure, mais est-ce vraiment un épisode de la série de Cable? Voilà.
Non, non, puisqu'on en parle, on en parlera tout à l'heure, de toute façon.
Donc, au scénario, Dwayne Swarzynski, hein, toujours,
Et
celui
puis au
qui
dessin,
a...
10 personnes, 15,
Ouais, il y
16.
a Ramos, Medina, Paul Gulacsy, Gabriel Guzman et Giancarlo Caracuzzo.
Cela fait du
Voilà.
slip, quoi, un petit peu.
Donc, Cable et Hope s'étaient réfugiés dans des navettes de survie à la fin du dernier arc où ils étaient encore poursuivis par Bishop, qui lui s'était réfugié dans une espèce de baleine de l'espace qui permet aux brutes de voyager.
Bah c'est une espèce d'énorme course-poursuite, comme tu disais. Alors je sais pas si c'était toi qui parlais de Benny Hill pour la série Cable.
Oui, c'était moi.
D'accord, voilà. Donc
La dernière fois.
moi, globalement, hein, franchement, j'ai bien aimé l'ensemble de la série et le côté poursuite. Mais là, c'est vrai que sur ces épisodes, d'ailleurs, on le ressent puisqu'on en lit pour la première fois quant à la suite, c'est rébarbatif, quoi.
Mais en fait, moi j'ai bien aimé la série jusqu'à ce qu'il se barre dans l'espace en fait. À partir de là, c'était vraiment too much. Au début, c'était sympathique, il y avait cette ambiance course-poursuite, Bishop qui revenait, etc. Bon, ok, mais il n'était pas présent dans tous les épisodes. Là maintenant, depuis presque une dizaine d'épisodes, on le voit dans tous les épisodes. C'est-à-dire qu'il le dégomme et le mec revient. C'est un véritable Terminator, quoi.
Il y avait Olivetti au dessin. Alors, beaucoup n'aiment pas, mais moi j'aime bien.
Moi, j'aimais bien aussi. Ça, c'était relativement sympathique.
Ça
Il
changeait les autres séries un petit peu.
y avait certains plans qui étaient quand même franchement dégueulasses. Moi, je me rappelle d'une scène avec une espèce de bagnole ajoutée par Photoshop qui m'avait fait mais bondir de mon siège à l'époque où je l'avais lu, quoi.
Ah, j'aurais bien aimé
C'était
voir ça.
tellement collé sur l'image, ça se voyait tellement que ça en était ridicule.
D'accord.
Bon, bref.
Oui, comme tu dis.
Là, donc ils sont dans des navettes de survie, ils voyagent pendant 2 ans dans ces navettes de survie avant de
Comme dans Alien,
revenir
ça t'a
sur
fait penser
Terre.
à Alien,
Mais
forcément.
exactement, exactement, mais bien sûr,
Avec la fille, etc.
c'est volontaire de toute façon. C'est
Bien sûr.
volontaire.
Bah les Broods en plus, je veux dire. Après les Broods, on ne pouvait pas faire autrement, quoi.
Comment ne pas y penser, quoi? C'est le début d'Alien 3. Sauf que là, ils tombent pas sur une planète prison, ils tombent sur la Terre.
Oui, sauf que là, il y a une énorme baleine aussi.
Je
S'il y avait eu une énorme baleine dans Alien, je sais pas, mais.
pense que le film aurait perdu en crédibilité tout de suite.
Oui, une baleine volante, non identifiée.
Donc, en arrivant sur Terre, Bishop, bien sûr, est toujours là.
Et puis
Et donc.
Bishop, hein? Dans Alien, il n'y a pas Bishop. Tout est lié.
Du coup, va s'engager une course-poursuite à travers le temps cette fois-ci, car Cable récupère la machine temporelle de
La machine à dés,
Bishop
tout simplement.
et ils essayent de revenir dans le temps présent. Sauf que ça marche pas et on assiste à quelque chose dont on va assister dans une mini-série Batman bientôt. Ça m'a fait vraiment penser à ça.
Moi, ça m'a fait penser à Lost.
Ah,
Ah oui, mais tu l'as pas vu. Tu l'as pas
voilà.
vu.
Donc je ne
Quel
sais pas.
dommage. La saison 5, c'est ça. Voilà, là, t'as vu la saison 5 de Lost. C'est
D'accord.
des voyages dans le temps intempestifs.
Bon, bah ça me donne vachement envie de le voir.
Ah passe-temps, hein. Passe-temps, puisque de toute façon,
Non,
à partir de
c'était
la 4.
ironique.
Oui, non, mais après la 4, de toute façon, il n'y a plus rien à voir.
Un
Enfin,
jour,
pour
je
l'instant,
dépasserai
c'est
la
ça.
2 aussi. Un jour, je dépasserai la saison 2.
Ah, allez, elle est bonne, la saison 2. Enfin, la deuxième partie. Bref, bon, donc.
Donc ils sautent dans le passé, ils reviennent dans le futur, et à chaque fois ils se rapprochent du temps présent, que ce soit les bons dans le futur comme les bons dans le passé. Ils commencent par arriver sur Terre en haut, je sais même plus, c'était au XVIIe siècle, je crois, quelque chose comme ça, le premier bond
Oh,
qu'ils font dans le
c'est pas
passé.
grave, ne laissons la surprise, de toute façon. Ils voyagent tellement au cours des épisodes, puis à un moment ça devient même ridicule. Sur une même page, t'as trois dates différentes, trois époques différentes, Cable, Bishop n'en peut plus. Ils se
Oui,
disent
parce
non mais
que
c'est pas possible, faut qu'ils arrêtent.
en fait, il y a un mécanisme de sécurité sur la machine temporelle, et ce qui fait qu'à chaque fois qu'il saute dans le passé, Bishop est automatiquement transféré lui aussi, pour ne
Oui.
pas être séparé de sa machine temporelle.
Oui. Et toi, tu te demandais comment ils allaient pouvoir revenir sur Terre. En fait, ils reviennent sur Terre à une
Bah
autre
avec ses
époque.
à ses vaisseaux de survie, quoi. Avec ses
Voilà.
vaisseaux de survie.
Voilà. Mais alors, par contre, il y a juste aussi un truc qui m'a étonné. Je me suis dit, la fin là de cette mini-série qu'on va pas dévoiler, ce que Cable fait à Bishop, il aurait pu le faire depuis longtemps.
Mais oui, bien sûr.
Il aurait pu le faire depuis longtemps.
Pourquoi
Tu vois.
s'est-il pas occupé de Bishop dans le passé, quoi? Tout simplement, il n'y aurait pas eu tout ça.
Tout simplement. Parce que là, il lui fait quelque chose. Alors je me dis, bah oui d'accord, mais il aurait pu faire ça 24 épisodes avant, quasiment.
Bah, à partir du moment où il contrôlait sa machine, il faut savoir que la machine de câble, le problème qu'il avait, sa
Ouais.
machine étant détruite
Oui.
maintenant, il ne pouvait aller que vers l'avant, il ne pouvait pas
Oui.
revenir dans le passé, sinon ça aurait été trop facile. Il partait dans le futur et hop, il revenait dans le présent,
Oui,
c'était
tu
parfait.
avances et tu recules, comment veux-tu?
Qu'on passe à la seconde review.
Très bien.
Avant de terminer, il y a quand même deux, trois choses. Bon, ça se lit quand même relativement bien.
Oui, c'est sympathique quand même à lire.
Il y a deux
On
épisodes
s'ennuie
doubles.
pas.
Parce que c'est vrai que c'est un numéro hors série à 5,60, mais il n'y a que 4 épisodes dedans, mais c'est deux épisodes doubles. Le
Ouais,
21 et le 24 sont
c'est
des épisodes
épais, hein.
doubles.
C'est épais comme numéro. On a l'impression d'en avoir quand même pour son argent,
120
perte
pages.
de pagination. Oui, ça va. Mais
Il y a des paradoxes temporels qui me gênent. Et notamment, le dernier truc, quand ils vont chercher le casier d'armes que
oui.
Cable s'était mis de côté, s'il rafle tout ce qu'il y a dans ce casier d'armes, dont il s'est servi dans ses anciennes séries, il a modifié le temps.
Probablement.
Et voilà.
Probablement que ça aura des répercussions. Mais moi, j'ai beaucoup aimé le moment, je sais pas si on peut le dire, où il dit, voilà, là, je suis en ce moment quelque part avec les X-Men. Tu te rappelles, quand il arrive quelques années auparavant.
Ouais.
Au début des années 90, non, mais moi, j'ai trouvé ça marrant, quoi, comme situation, et qui dit, alors là, t'imagines les X-Men, je sais pas, tu sais, sur l'île de Muir, juste avant de créer les deux équipes, ou ce genre de choses.
Ouais.
Et je me suis dit, c'est sympathique comme situation. Enfin, moi, j'aime beaucoup les histoires de voyage dans le temps, le retour vers le futur, quoi. Donc là, ça me faisait penser à ça. Et ça fait surtout penser, et encore plus après, à Terminator.
Mais oui, puis bah, moi, c'est pour ça aussi que ça m'a gêné, cette histoire de paradoxe, parce que les histoires de voyage dans le temps, on sait très bien que le moindre truc change tout, quoi.
C'est les ça voyages qui m'a vraiment gêné.
Ça pouvait aller, scénaristiquement parlant, jusqu'à ça, quoi. Et là, là, il y a un faux pas. Bon, tant pis. De toute façon, ça changera pas grand chose. On va toujours révéler la fin quand même.
Bah, ils reviennent, on s'en doute.
Ils reviennent, voilà, ils reviennent dans le temps présent, tout simplement. Mais ils se retrouvent à l'Institut Xavier.
Voilà, qui est en ruine. Et c'est là où commence.
Second Coming, puisque bah, ils ne savent pas que les X-Men ont déménagé à San Francisco.
Alors précisons que ce hors-série, c'est, je crois, le premier, selon Panini, depuis 2007, de X-Men hors-série.
C'est possible.
En tout cas, c'est le premier, puisque c'est un nouveau numéro 1. Ils ont même relancé, en fait, les hors-séries. Ce qui est bizarre.
Alors, est-ce qu'ils ont relancé les X-Men Extra, on verra. Parce que les X-Men Extra existent toujours.
Mais oui, théoriquement, puisque regarde la série X-Men Legacy, je crois que ça s'appelle, par Claremont.
X-Men Forever.
X-Men Forever, par Claremont, qui devrait normalement continuer à être publiée en français, à moins qu'elle ait été annulée à cause d'une certaine traductrice.
Oh, comme c'est mesquin.
Oh non, c'est pas mesquin, c'est...
Non, je sais, c'est pas mesquin.
Elle mérite. Elle mérite, elle va prendre cher.
Allez, on passe au X-Men numéro 1.
Oui, passons au X-Men numéro 1.
À moins que tu aies quelque chose de plus à rajouter.
Non. Puis surtout, il y en a à dire aussi.
Bon, on peut s'en passer, hein. Franchement, de ce X-Men hors série, on peut vraiment s'en passer.
Ah, je trouve que ce serait dommage quand même. Moi, je suis d'avis quand même de le prendre pour apprécier. Je pense qu'on apprécie encore plus Second Coming avec ça. Même si c'est vrai que c'est dispensable, c'est une bonne mise en bouche et j'ai passé quand même un bon moment. Donc je vais pas renier mon plaisir et moi je le conseille quand même.
D'accord. Vous savez ce qu'il vous reste à faire.
Bah si vous avez le budget pour un paquet de clopes, si au contraire vous n'achetez pas de clopes, eh ben prenez-le quoi. Ça vous fera moins de mal en plus.
Un peu décousu.
Oui, enfin bon.
Allez, X-Men 1, donc le premier magazine relaunché, vraiment. Alors, comme c'est un gros crossover Second Coming, on va pas traiter épisode par épisode. On va parler de la globalité.
On va essayer de traiter intrigue par intrigue, ça va être compliqué aussi, mais bon, on va essayer.
Alors, je vais annoncer un peu tout ce qu'il y a dedans. On a 4 épisodes, Second Coming Prepare, qui est vraiment un tout petit épisode, écrit par Mike Carey, dessiné par Stuart Timonen et avec Michel Lacombe à l'ancrage. On a ensuite l'épisode Second Coming numéro 1, enfin c'est un one shot, la façon de lancer les events comme on fait aujourd'hui, hein. On avait eu la même chose avec comment ça s'appelait, Utopia je crois, non pas Utopia, c'est le crossover entre les Dark X-Men et les Dark Avengers.
Si c'était ça, c'était Utopia.
Voilà. On avait Messiah Complex aussi, enfin tout commence par un one shot aujourd'hui, c'est comme ça.
Même ton petit déjeuner, même ta journée.
Oui, exactement.
Ça commence par un one shot.
Second Coming donc est écrit par Kyle Yost avec au dessin David Finch et Matt Banning à l'ancrage. Et on poursuit ensuite avec, j'ai dit 4 épisodes d'ailleurs, il y en a 5, j'ai dit une grosse connerie. Uncanny X-Men 523, Matt Fraction et les Dodson au dessin et à l'ancrage, donc Terry et Rachel. New Mutants numéro 12, Zeb Wells avec Ibrahim Robertson pour la partie graphique. Et Legacy numéro 235, Mike Carey, Greg Land et Jay Layston. Voilà, j'ai fait le gros tour du propriétaire, ça fait beaucoup de noms, mais maintenant on va passer à l'histoire. Je vais te laisser attaquer la partie de l'histoire d'ailleurs, si tu veux.
Cable et Hope donc reviennent dans le temps présent, et au fait ils arrivent directement sur les ruines de l'Institut Xavier, qui a été détruite lors de la fin
de Messiah Complex.
Ils sont étonnés de voir que les X-Men ne sont plus là, et ils redoutent d'ailleurs que les X-Men aient disparu depuis. Cyclope repère grâce à Cérébra le retour de Cable. Donc les X-Men passent en alerte rouge. Et de leur côté, surtout, les ennemis menés par Bastion, puisqu'on retrouve tout ce groupe avec Bastion, avec Cameron Hodge, avec Trask, Bolivar Trask, je sais plus les autres d'ailleurs.
Il y a le
Ah,
révérend
il y a le révérend
Stryker.
Stryker aussi, voilà. Passe et aussi en alerte rouge avec le retour de Hope,
Tous
puisqu'ils
les gens
veulent.
qu'on avait vus en fait dans le premier arc d'X-Force.
Ouais, exactement. Ça avait
Voilà.
été mis en place. D'ailleurs, c'était l'une des intrigues actuelles sur les séries X qui me passionnait le plus, ce
On se
retour des
demandait
anciens
où ils
ennemis.
étaient. On se demandait où ils étaient passés d'ailleurs dans les derniers
Et bah
numéros
voilà. Et bah
d'X-Force.
là, ils sont tous là pour la fête, la grande fête finale avec le retour de l'invité principal, Hope. Et dont ils veulent s'emparer évidemment, puisque c'est la première mutante depuis le jour M.
D'ailleurs,
Donc.
on a l'information de combien de mutants il reste exactement, qui
Oui,
est
alors.
donnée par le docteur Nemesis. Il en reste 181.
181, et au début, il y en avait combien?
198,
190.
soit 18, soit 10 ans.
Ouais.
Et 181, et donc, d'après les calculs qu'il a fait, le fait qu'il meure assez fréquemment en se battant les uns contre les autres, etc., il pense que, à part un ou deux immortels dans les mutants, il devrait plus y avoir de race mutante d'ici 7 ans.
D'accord.
À ce rythme-là, voilà. C'est
Ce qui met Cyclope en joie d'ailleurs.
oui, bah, il fait la fête d'ailleurs. C'est là qu'il fait péter les feux d'artifice et tout. Il est heureux,
Oui.
quoi.
Et donc s'engage donc une espèce d'énorme course-poursuite pour retrouver Hope et Cable, surtout Hope.
Ouais, parce que Cable et Hope ont été attaqués dès leur arrivée en fait
Oui,
par
par des smileys.
ouais des mecs en armure.
Ils
Ensuite
appellent comme ça même en français.
la Sapien League. Enfin, tout ce joyeux petit monde qui veut détruire les mutants, quoi.
Oui, bah de toute façon ils sont tous avec Bastion et Bastion les envoie tous les uns après les autres essayer de récupérer Hope. Et il y a une espèce d'énorme course-poursuite et en plus dessinée par David Finch, ça donne un aspect assez cinématographique. À un moment donné, il y a une espèce de splash page avec une voiture qui part en vrille, etc. Moi ça m'a vraiment fait penser à Judgment Day, quoi. À Terminator 2, quoi, le côté, il revient du futur, faut absolument empêcher Hope de rester en vie, ou enfin faut absolument la récupérer, etc. parce que elle risque de changer le futur, ça risque d'être apocalyptique, etc. Enfin, il y a vraiment un côté, vraiment un gros blockbuster, quoi, d'un seul coup dans les
Oui,
X-Men.
complètement, complètement.
Avec tous les gens qui essayent de la récupérer. Enfin, il se passe tellement de choses que c'est vraiment vraiment difficile de tout résumer dans l'ordre en plus, puisque, en fait, Cyclope, dès le début, fait différentes équipes qui ont différentes missions. Par exemple, les New Mutants, eux, doivent attaquer la base de Cameron Hodge.
Afin de l'empêcher d'envoyer ses armées en renfort.
Et alors, la bataille, par exemple, avec les New Mutants contre Cameron Hodge est
Excellente.
titanesque, quoi.
Ouais, excellente.
Titanesque. Il y a des pertes, on va dire.
Oui, il y a des pertes.
Je
Dans
laisse...
tous les camps d'ailleurs. Dans tous les camps. Parce
Dans tous les
que.
camps, il y a des pertes, ouais.
Ouais. Et puis pas des moindres. C'est surtout ça le truc.
Ouais, pas des moindres. Alors, en tout cas, pour X-Men, pour cette première partie, il y en a déjà, et puis il y en aura encore d'autres pour X-Men Universe, peut-être même encore plus importantes. Mais dans X-Men, ça commence déjà très très fort. Il y a aussi l'équipe menée par, enfin l'équipe, c'est même pas une équipe d'ailleurs, Malicia, qui part un petit peu de son côté, et qui au fait, vers la fin d'ailleurs de X-Men,
Prend
dans
tous
la
les
dernière
pouvoirs.
partie, oui voilà, va bah je sais pas si on peut le dire, mais effectivement oui, absorbe pas mal de pouvoir, et j'ai trouvé ça quand même assez marrant, quoi, ce côté
Bah, maintenant qu'elle sait servir de son pouvoir, vraiment.
bah elle peut devenir vraiment une menace, pour les ennemis des X-Men elle peut devenir vraiment redoutable, quoi.
Elle est super balèze, c'est clair.
Donc, le but étant de ramener Hope à Utopia, hein,
Pour la
pour la
mettre en
protéger,
sécurité.
pour la mettre en sécurité. Et on a cette baston aussi, alors, contre le révérend Stryker, d'un autre côté, avec, je crois, il y a Wolverine, Colossus qui sont sur place.
Bah, y a les membres d'X-Force surtout, puis X-Force, est révélé au
Oui.
grand jour.
Voilà, c'est. Ah oui, aussi, voilà. Bah ça, pratiquement dès le début, Nightcrawler, par exemple, qui ne savait absolument pas que X-Force existait, et en tout cas qu'ils avaient pour mission d'employer les moyens les plus extrêmes pour mener à bien leur mission, comme Masque. Et bien, donc là, il est vraiment furieux, et il y a cette confrontation avec Cyclope, par l'intermédiaire de la télépathe Emma Frost, qui est d'ailleurs assez marrant. Cette manière de communiquer. Donc oui, effectivement, il se passe plein de choses, ça bouge énormément, il y a une espèce de tension permanente entre les membres de l'équipe. sur les décisions à prendre, qu'est-ce qu'il faut faire, la limite à ne pas franchir. Et donc oui, il y a cette bataille contre Stryker, surtout où X-Force ne se ménage pas, on va dire
c'est
ça comme
clair.
ça. Et il se passe aussi un gros truc, c'est que Illyana disparaît en plein milieu de cette bataille.
J'avais presque oublié ça.
Voilà, Magic disparaît, emporté par des démons invoqués par Stryker. Donc à voir où ça nous mène, puisque c'était. Enfin, moi je m'attendais à. En fait, je ne savais pas ce qui se passait exactement dans Second Coming. Je savais que Hope et Cap revenaient, mais je ne connaissais pas les détails. Et là, franchement, moi ou quoi, je.
C'est vraiment super bon. Il n'y a pas un temps mort.
Non.
Ça ne s'arrête jamais.
Non. Oui, mais c'est vraiment le côté. J'ai l'impression que d'habitude, c'est comme si je matais une série télé des X-Men. Donc avec vraiment des épisodes qui les trois quarts du temps sont assez assez chiants, faut le dire quand même. Et là d'un seul coup c'est comme si on m'avait fait un film, tu vois, le film tiré de la série, quoi, tu vois. D'un seul coup ça pète de partout, c'est vraiment un énorme blockbuster. T'es là, tu te dis putain pendant 2 heures, tu lis le truc, tu te dis oh putain c'est excellent, vivement la suite. Et c'est vraiment ça, quoi. Donc je dis pendant 2 heures parce que je compte les trois revues quand même. Et on va peut-être enchaîner avec la revue suivante.
C'est le X-Men Universe numéro 1 qui remplace donc le Astonishing X-Men. Le premier épisode, c'est le X-Force 26, qui est la dernière partie officielle à faire partie de Second Coming. Il y a un autre épisode, on en parle après. Kal Elios au scénario, Mike Choi au dessin, Sonia Aubach à l'ancrage. Donc déjà, c'est le retour de Mike Choi au dessin.
Oui, alors j'ai la partie graphique aussi est très sympa. Alors New Mutants aussi, pareil, j'ai oublié de le signaler, mais j'ai beaucoup aimé la partie graphique de New Mutants.
Et donc bah là, on a un gros combat entre Bastion.
Ouais.
Dans une version super.
Apocalyptique, je dirais, parce que moi,
Ouais.
ça m'a fait penser vraiment à mort, quoi.
Oui, il a vraiment le look Dark Angel. Totalement.
Totalement, totalement. Peut-être même un peu trop. Et il fait aussi très manga. On dirait vraiment la transformation finale d'un boss de jeu vidéo, par exemple, tu vois. Le boss final, quoi. Tu vois, c'est vraiment le boss final du jeu de baston, le
Bah,
mec.
Sébastien.
Oui,
Ouais,
du jeu de baston.
c'est le grand méchant derrière tout ça. C'était vraiment nul comme blague. C'était vraiment moisi. Donc il y a cet énorme baston qui s'engage entre Rogue avec tous ses nouveaux pouvoirs et Bastion pour sauver Hope. Et puis on a un gros sacrifice de la part d'un X-Men
Ah oui, un
du.
sacrifice que j'ai trouvé, alors là par contre, un peu inutile finalement, puisque Rogue était là en plus.
Non, il n'est pas inutile. Moi je trouve vraiment bien ce sacrifice. Enfin, vraiment bien mené, ça me fait chier, ça m'emmerde profondément que ce personnage-là soit mort. Mais le sac, enfin, toute la scène du sacrifice est vraiment bien menée, et je vois pas comment ils auraient pu s'en sortir.
On parle bien sûr du sacrifice de Deadpool.
Si seulement.
Ah bah de toute façon, je pense même qu'il pourrait en faire 36 comme ça. C'est vrai que c'est con parce qu'il devrait utiliser Deadpool pour ça, quoi, plus souvent. Pour se sacrifier en permanence, puisque le mec revient toujours. En plus avec une vanne, donc.
Donc
Deadpool nous
voilà,
sauvera tous.
on va pas en révéler sur cet épisode, on va pas révéler qui se sacrifie, justement,
Non.
c'est quand même.
Non, non. Et puis
Mais
on
c'est
a.
quelqu'un du premier plan, quoi. C'est vraiment. C'est pas juste un personnage qu'on a mentionné 3 fois et qui est apparu dans 2 caméos en fin fond de page sur des group shots, quoi.
Non, non, mais il y a vraiment de la perte, comme tu disais, aussi bien d'un côté comme de l'autre. Et on s'attend, enfin, en tout cas, quand on n'a pas lu les spoilers, quand on n'a pas vu de spoilers sur Internet, on s'attend à rien, quoi. C'est-à-dire que, on est vraiment surpris, par le déroulement des événements.
Mais en tout cas, pour le moment, c'est Second Coming excellent, quoi. Une vraie digne suite de Messiah Complex.
Et y avait-il une suite à cet épisode, je ne sais plus.
Non, puisqu'après, on passait sur X-Factor.
Ah oui, c'est vrai. Bah oui, mais alors X-Factor en fait partie quand même.
Ah, c'est vraiment un tie-in lointain, quoi.
C'est vrai que ça reste un petit peu dans son coin. Mais alors quel tie-in aussi.
Ouais. Alors, X-Factor, c'est le numéro 204. Peter David au scénario. Valentine Delandreau au dessin. Pat Davidson à l'ancrage. Donc, c'est vraiment. D'ailleurs, c'est en marge, c'est tellement en marge du crossover Second Coming que ça s'appelle Second Coming Revelations. Ils ont vraiment mis un surtitre à ça.
D'accord, je vois pas où est la révélation là-dedans, par contre.
Pour le moment.
D'accord.
Et donc là, c'est vraiment face à Bolivar Trask qui veut détruire tout X-Factor.
Voilà. Bah, chaque équipe ou sous-équipe de X-Men fait face justement à un ennemi en particulier.
Bah, un des
Et
spires de Bastion, ouais.
voilà. Et donc là, eux, ils ont hérité de Bolivar Trask. Ce qui est pas plus mal parce que ça te permet vraiment de voir qui est qui. Parce que c'est vrai que depuis quelques années, je m'y perdais entre les ennemis. Je savais plus qui avait fait quoi, et voilà, et là, c'est très clair, quoi.
Et donc, bah, pour les tuer, il décide de les engager sur une fausse affaire, une fausse enquête. Absorbing Man va les voir, en leur disant, ma femme me trompe,
Oui.
j'aimerais bien que vous les suiviez,
C'est toujours
vous la
très drôle,
suiviez,
malgré tout.
voilà. Et que vous essayiez de savoir pourquoi.
Ouais.
On va pas en révéler plus. De son côté, il y a toujours ce plot avec Monette qui est en Amérique du Sud pour essayer de retrouver son père qui a été enlevé et Guido qui est sur sa trace. Et donc il se fight avec le baron Mordo. Et puis
Alors, ça j'ai eu l'impression, franchement, que Peter David, on lui a dit, écoute, ton intrigue avec le baron Mordo, tu l'oublies, tu vas nous faire un tie-in à Second Coming, et du coup, tu vas nous expédier ça rapidement, quoi.
Et du coup, voilà, il y a les soldats de Trask qui débarquent là aussi. Mais alors, par contre, si vous n'avez pas lu le Monster X Factor, bonne chance pour comprendre l'épisode.
Bah, oui et non, parce qu'on part vraiment quand même sur un truc qui a plus grand-chose à voir, c'est-à-dire qu'on retrouve les
Ah,
personnages
mais.
d'X-Factor.
Ouais, mais enfin, pour ceux qui n'auraient pas lu le Monster, ils ont un putain de gap entre le dernier épisode
Ah oui, tout
qui
à
était publié
fait,
dans Astonishing
ouais.
X-Men. Et ça, quoi. Enfin, je veux dire, ils vont pas comprendre pourquoi X-Factor est à New York, pourquoi Sayeri n'est pas dans le coin. Enfin, comment ça se fait que Madrox est à nouveau dans l'équipe alors que dans les derniers épisodes, il était dans le futur avec Layla Miller. Enfin, voilà, quoi. Le Monster X-Factor est vraiment essentiel à
Bah,
lire
ils
pour mieux
comprendront
comprendre.
quand même que tout est rentré dans l'ordre, quoi, quasiment, peut-on dire.
Ouais, en quelque sorte.
Ouais, et que bon, effectivement, ils se sont déplacés, comme t'as dit, et que Siren est en Irlande, mais bon. Enfin, ça, tu peux le comprendre. Mais par contre, effectivement, ils ont raté bah, une bonne partie. Et puis en plus, quelle bonne partie, justement. Puisque c'était très
Effectivement.
bien, quoi. C'était vraiment des épisodes à ne pas louper. Surprenant, quand même, cet épisode. Enfin, moi, je me suis dit, merde, attends, c'est quoi ce bordel, quoi?
Ah bah la fin est choc. Comment
Donc, je...
vont-ils s'en sortir?
Ah bah, si tant est qu'ils puissent, justement, quoi, après ça. Parce que j'ai envie de te dire, là, en plus, c'est visuel, quoi. Donc,
C'est ça qui fait le charme, c'est qu'on sait qu'ils vont s'en sortir, c'est savoir comment qui nous intéresse.
ouais, puis en plus, j'allais te dire peut-être Baron Mordo, mais il était même pas là en plus.
Non, il est en
Donc,
Amérique du Sud, face à
bah
Guido.
oui, ouais. Donc bon, bah je ne sais pas, et en tout cas, j'attends la suite aussi avec impatience. Et on passe à quelque chose de totalement différent quand même.
Alors, c'est le câble numéro 25, le dernier épisode de la série, quoique,
Quoique,
puisqu'apparemment.
puisque je crois que sur la couverture, c'était Cable et Deadpool déjà.
Oui, ça s'appelait Deadpool Cable, mais c'était l'épisode Cable 25. Quand tu regardes l'ours, c'est le câble numéro 25 qui est
Ouais.
le vrai titre. Et je crois qu'il va y avoir un épisode qui va sortir bientôt aux États-Unis, ou qui est peut-être même déjà sorti, je ne sais plus. Un autre Deadpool Cable 26. Voilà. C'est étrange. Enfin bon. C'est Dwayne Swarzynski au scénario, bien sûr, Paco Medina au dessin et Juan Blasco à l'ancrage. Et alors là, c'est un épisode qui se...
Il a sorti les skis.
C'est un épisode assez bizarre en fait qui se passe pendant Messiah Complex, où
Ah oui, alors ça, par contre.
ça nous montre comment Deadpool a aidé Cable pendant qu'il fuyait avec Hope.
Voilà. Donc c'est très drôle. Mais alors, attends, il y a un truc qu'on n'a pas précisé, c'est que donc tous ces nouveaux titres, enfin tous ces nouveaux titres. Tous ces titres sont des numéros 1 en français. Aussi bien X-Men que X-Men Universe que le hors-série. Et du coup, on te dit que c'est un bon jumping point pour les nouveaux lecteurs. Le problème, c'est que pour comprendre déjà ce qui se passe dans Second Coming, faut être balèze, sans avoir lu les dernières années de X-Men. Je pense que tu peux être d'accord.
Ah oui, complètement.
Et là, cet épisode qui se passe à l'époque de Messiah Complex, si tu n'as pas lu Messiah Complex et que tu viens de lire Second Coming, tu te dis, mais de quoi il parle, honnêtement? Qu'est-ce
Ouais,
que c'est que ce bordel?
tu
Et
sors
puis
un
en
gros
plus,
what the fuck, ouais, effectivement.
tu n'apprécies pas l'épisode parce que ils reprennent vraiment des images, des planches. Déjà la première page avec Cap qui tient le bébé dans ses bras, c'est vraiment une image de Messiah Complex. Sauf que là c'est Deadpool à la place du bébé, donc ça commence bien.
Ouais,
Mais
elle m'a fait rire cette image,
tu te
j'avoue.
marres pas autant si tu n'as pas lu Messiah Complex quand même.
Ouais, mais l'épisode est très bon par contre.
L'épisode est très marrant, c'est du bon Deadpool.
C'est du bon Deadpool, ouais, c'est clair.
C'est du bon Deadpool cette fois-ci.
Et d'ailleurs, on a une petite vanne de la part de Swarovski qui fait sa propre pub. Hein. Je sais pas si tu te rappelles, une des dernières pages où tu vois Deadpool s'en aller et qui dit pourquoi pas un Deadpool corps aussi.
Ah parce que c'est lui qui fait Deadpool Core, je me rappelle même plus.
Ouais, c'est lui, je crois.
D'accord. Non, mais parce que non, mais ce qui est très drôle, oui, c'est la critique en plus des titres Deadpool. Quand il dit il n'y a pas assez de Deadpool, il faudrait 4 ou 5 titres, il faudrait 2 séries régulières, je sais pas. Enfin, tu vois, il commence à vraiment à critiquer limite la manière qu'a Marvel d'exploiter autant ce personnage. Et c'est assez drôle, quoi. Et le truc, c'est que à la fin Deadpool, quand il s'en va, alors j'ai pas très bien compris si c'était. Alors, je me demande si t'as compris comme moi, si au fait c'était un long monologue et que c'était dans sa tête tout ça. Est-ce qu'il a vraiment aidé Cable ou est-ce que c'était totalement un délire dans la tête de Deadpool?
Je pense que voilà, c'est le personnage qui est toujours très limite comme ça, et donc tu comprends ce que tu veux au final.
Ouais. De toute façon, tu t'en fous puisque finalement ça ne change rien.
Non, ça change rien, ça peut à la limite expliquer un peu pourquoi comment Cap s'en est aussi bien sorti
Bah, de toute
tout
façon,
seul
c'est
avec le
simple.
bébé, quoi.
C'est simple. Est-ce qu'il y a eu un Predator X qui avait explosé dont on ne savait pas pourquoi il avait disparu?
Mais je sais pas, j'ai pas été relire mes sagas complètes
Ouais,
pour ça.
faudrait vraiment faire des recherches. Parce que s'il y en a un qui disparaît à un moment donné dans Messiah Complexe, qu'on ne savait pas pourquoi, et que là, au fait, tu découvres que c'est Deadpool qui l'avait fait sauter, moi, je trouverais ça génial quand même.
Bah, en tout cas, moi, l'épisode m'a vraiment fait marrer. Je m'attendais franchement à une grosse merde. Et
Ouais. Oui,
en
parce que,
fait, non, c'est vraiment très bon.
effectivement, après la lecture de Second Coming, tu te dis, oh non, merde, va falloir attendre maintenant un mois. Et puis là, on nous file un vieux numéro de Cable et Deadpool. Et puis finalement, c'est très très drôle.
Ouais,
Et
non,
ça reste
mais...
quand même dans le sujet.
Oui, complètement. Complètement.
Voilà. Bon. Et on termine en beauté.
Oui, en
Sauf si
beauté,
t'as
oui.
autre chose à dire.
Non, 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 non.
Là.
Nation X numéro 4, une petite histoire tirée de
Bah, de
cette
Nation.
mini-série en 4 parties. C'était que des mini-histoires, là c'est la troisième du numéro. Ivan Brandon au scénario, si on peut appeler ça comme ça. Raël Lyra au dessin, Marc Morales à l'ancrage. Voilà, alors bon, on va faire le pitch en 30 secondes, même pas. Il y a trois Young X-Men, je crois que c'était des Young X-Men, hein, qui veulent voler de la bouffe, parce que bah, sur Utopia, ils sont tous coupés du monde, donc il faut faire attention aux rations qu'on donne. Et comme ils ont faim, ils veulent voler de la bouffe, et comme les X-Men n'ont pas trop confiance en tout le monde, ils font des tours de garde, et là, cette fois-ci, c'est Warpath qui doit garder le frigo. Voilà.
Voilà. Non mais alors j'ai trouvé ça ridicule la manière dont déjà Warpath se permet de les affronter et vraiment limite les blesser pour une histoire de glace. Et alors je pense la réplique la plus grotesque, c'est à la fin le mec qui lui dit mais t'es en train de mâcher, et t'as Warpath qui est en train donc de mâcher une glace. Alors je sais pas vous, mais mâcher une
Je crois que
glace.
c'est un bout de poulet, hein, moi qui bouffais, mais...
Ah ben là c'est dit en tout cas dans la traduction
Ah
française
d'accord.
qu'il mâche de la glace. Alors mâcher de la glace. Personnellement, moi, j'ai pas besoin de mâcher une glace. Enfin, ça... Donc, je me suis dit, Warpath, c'est peut-être l'un de ses pouvoirs qu'on ne connaît pas. Au fait, lui, il mâche sa glace.
Ah mais c'est que c'est tellement un barbare que mâcher la glace, ça lui fait pas peur, c'est tellement
Non,
froid, mais c'est pas grave. Il est trop balèze, Warpath.
mais
Il le mâche la glace.
c'était tellement ridicule et tellement sans intérêt cet épisode que, franchement, là, on a terminé là-dessus. C'était dommage, quoi. Tu vois, c'était vraiment le petit truc de merde sur lequel on pouvait vraiment s'en passer, quoi. Il fallait qu'il le mette quand même.
C'est une petite daube, c'est clair. Mais bon, c'est parce que Cable 25 était un double épisode, mais il y avait des pages à combler, donc voilà, on met un petit truc. Ils auraient pu mettre autre chose, quoi.
Ouais, complètement là, parce que là, c'était vraiment l'épisode bouche-trou par excellence. En tout cas, les trois titres.
Ouais, voilà.
Enfin,
Le
le
relaunch global de X-Men. Bon, le relaunch, on en a déjà
Le faux
parlé.
relaunch, mais
Ouais.
bon, qu'importe. En tout cas, Second Coming en français, c'est maintenant, et il faut surtout pas louper ces deux premières parties parce que
Non, non.
c'est génial.
C'est vraiment très bon. Si vous voulez lire du bon X-Men, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu du très bon X-Men comme ça. Et moi,
Pas
franchement,
depuis
j'ai
Messiah
pris une bonne
Complexe.
claque. J'ai pris une bonne claque. C'est véritablement un crossover typé années 90. Moi,
Ouais,
ça m'a
non,
fait
mais
penser
encore.
à des Extinction Agenda, à des Excursioner Song, des trucs qui bougeaient dans tous les sens, qui ne s'arrêtaient jamais,
Mais en
avec
même temps.
différentes équipes à différents endroits. Voilà.
Mais en même temps, pour moi, c'est ça les X-Men. Parce que
Oui,
rappelle-toi,
c'est ça.
Claremont avait clairement commencé avec, tu sais, Mutant
Fall of the
Massacre.
Mutants, ouais. Bon,
Fall
oui,
of
il y
the
avait,
Mutants, ouais.
ouais, Fall of the Mutants, et puis
Là,
Mutant
là où
Massacre.
X-Factor était de leur côté, enfin, était d'un côté, et puis l'X-Men de l'autre, et
Ah,
ils se croisaient dans le
ça c'était
tunnel, et puis il y avait de
le,
la
ouais.
fumée, et puis tu te disais, oh putain.
C'était Mutant Massacre, ça c'était.
Mais en tout cas, c'était toujours Claremont, et il avait vraiment initié cette manière de faire, et c'était bon, surtout ces épisodes.
Non, moi franchement, je trouve ça excellent. Excellent, ça fait. C'est vrai que ces derniers temps, j'avais lu des, enfin, on avait lu des épisodes d'Uncanny X-Men qui étaient relativement sympas, mais alors à côté, ils n'existent même pas, quoi. Ça, c'est.
Bah, je dirais plutôt ces dernières années, on a lu des épisodes d'X-Force qui étaient sympas.
Non, on a eu des bons épisodes d'Uncanny X-Men quand même.
Quelques-uns,
Ouais.
mais
Des
je
épisodes sur
pense
le Science Club, ce genre de choses.
la série quand même qui m'a le plus intéressé ces dernières années, c'est quand même X-Force, de mon côté.
Ouais. Bah ça et
En règle
Legacy pour ma
générale.
part. Ah, New Mutants aussi.
Ça dépendait après pour les autres. Ça dépendait. Ouais, franchement, il y avait des hauts et des bas. Bref.
Ouais, il y a des bons, il y a des moments bons, mais Second Coming, c'est à ne pas rater. Vraiment. Allez-y, si vous connaissez un tout petit peu l'univers des X-Men, par contre.
Non, puis en plus, ouais, pour, ça, ouais. Alors j'ai pas fait le calcul, mais pour 4 euros plus 4,60 plus, si vous prenez le prélude, 5,60, c'est le plus cher justement, et c'est pas le plus, enfin c'est le plus dispensable. Vous en avez pour, je sais
ouais,
plus.
Une douzaine d'euros. 15
douzaine
euros,
d'euros, peut-être. Oui, voilà.
Allez, 15 euros. On arrondit tout à 5 euros, ça fait 15 euros. Allez.
Hop. Bah voilà. Et allez. Donc pour le prix d'un bon 100%, vous avez une bonne dose de lecture.
Ouais.
Vous avez plus de lecture d'ailleurs que dans un 100%.
C'est pas le même type de format, c'est sûr, mais...
Non, mais enfin bon, c'est le plaisir de lecture prime sur le reste, enfin, pour moi en tout cas.
Donc, c'est, bah, pour moi aussi. C'est du bon, faut se dire qu'en plus, il y en aura encore le mois prochain.
Donc, ah bah oui, puis il y en aura même pour longtemps, puisqu'ils vont le faire en 7, alors je sais pas comment ils vont...
Alors, je sais pas comment ils vont faire, mais on verra bien. Et non, voilà, faites-vous plaisir si vous aimez les X-Men à ne pas rater. Vraiment. La meilleure lecture des X-Men depuis,
depuis
ces 4-5 dernières années. Ouais.
Oh, deux ans en fait, puisque Messiah Complex était il y a 2 ans.
Bon, je trouve au-dessus de Messiah Complex pour le moment. Messiah Complex était bon, mais cette partie, je la trouve vraiment au-dessus.
Ouais.
Donc, un relaunch, on ne dira pas ce qu'on pense du relaunch, on l'a déjà dit, mais en tout cas, ça vaut.
Et on passe au plat de résistance, c'est le cas
de
dire.
La librairie au plat de résistance. Chou, tome 2, enfin... Tony Chu Cannibal, tome 2. Ce sont les épisodes...
Détective Cannibal, oui.
Oui, qu'est-ce que j'ai dit?
Tony Chu Cannibal, c'est,
ouais,
c'est Hannibal Lecter, alors.
épisode numéro 6 à 10 de la série US. Toujours John Neyman au scénario et Rob Guillory à la partie graphique, dessin et ancrage. Après ce premier arc, qui était une franche bonne surprise, un truc qu'on n'attendait pas du tout, enfin qu'on n'attendait pas qu'il soit aussi bon en tout cas... Bah, comment allait-il repartir? On va resituer la situation rapidement. Tony Chu est donc un cybopathe. Il a des flashs par rapport à ce qu'il mange. Voilà.
Alors, est-ce que ça existe en vrai? Je suppose que non.
J'espère pas.
Je ne crois pas.
C'est plus une malédiction qu'autre chose. Mmh. Et il était rentré au bureau de la FDA, c'est-à-dire Federal... je sais plus quoi... bref, une agence qui enquête sur la bouffe, puisque c'est dans un monde particulier...
En tout cas, en France, c'est la RAS.
D'accord.
Rien à signaler, quoi.
C'est un monde particulier où le poulet a été interdit.
Oui, suite à la grippe aviaire. C'est assez drôle. Il y a eu une restriction, une interdiction de manger du poulet, puisque après une crise mondiale qui a fait des millions de victimes, un petit peu la grippe aviaire, mais puissance 1000, quoi.
C'est si la grippe aviaire avait mal tourné, quoi.
Voilà, exactement. Et du coup, le poulet a été interdit à peu près partout.
C'est la grippe aviaire. Je sais, c'est naze comme fan. Oui. Je sais.
Non mais c'est surtout que c'est assez drôle parce que les gens se battent vraiment pour manger du poulet, ce qui est quand même assez marrant à imaginer, puisque je pense même que si le poulet était interdit à la rigueur, est-ce qu'il y aurait autant de gens qui le convoiteraient à ce point-là, quoi.
Ah, je sais pas, c'est l'époque de la prohibition, quoi. C'est pareil que l'alcool.
Ouais.
C'est à partir du moment où t'interdis quelque chose que.
Oui, mais enfin l'alcool, t'as les effets secondaires qui sont aussi appréciables. Pour de nombreuses personnes, alors que le poulet, c'est juste le goût, quoi, tu vois. À la rigueur, tu peux te passer d'un goût. Enfin bon, bref,
le débat philosophique. Donc.
Faut-il manger du poulet ou pas? Peut-on s'en passer?
Thème du prochain Comic City Chronicles, peut-être?
Peut-être bien, oui, je pense que là, il y a matière.
À la fin du premier arc, il se retrouvait trahi par son partenaire, qui était lui aussi un cybopathe. Les cybopathes, on a appris qu'il n'y en avait que 3 dans le monde. Et on cherchait toujours l'identité de ce troisième. Son partenaire était un gros pourri et s'est barré, donc il se retrouve sans partenaire.
C'est un cybopathe, ce psychopathe.
Ouais. Et là, donc, on lui assigne un nouveau partenaire, qui n'est autre que son ancien partenaire avant qu'il fasse partie de la FDA, qui a reçu une hache dans la tête, et qui a du coup subi une grosse modification. Il a une moitié de tête de Terminator. Mmh. Et puis, il a eu pas mal d'upgrades. Hein. Il branche sa tablette directement dans sa tête, enfin c'est assez drôle, quoi.
Ouais.
J'aime beaucoup aussi la façon dont il a forcé le boss, parce que le boss de Tony Chu ne peut pas le supporter. Il lui donne les pires trucs à faire, et donc on le voit dans ses premières enquêtes où il lui donne à manger un gros tas de merde.
Voilà, c'est ça. C'est la première enquête de ce volume, c'est comme il doit goûter pour savoir ce qui s'est passé, pour avoir des visions. Là, il y a juste tout ce qui reste, c'est un tas de merde.
Voilà, c'était une banque qui a été cambriolée et la seule piste, c'est un gros tas de merde. Puis c'est un gros tas de merde, quoi. Mm. Le truc immonde.
Fumant avec
Avec des
des
petites
mouches
mouches,
autour.
ouais, une petite mouche, bien sûr. Ça va, c'est les mouches qui vont bien, quoi,
Ouais.
toujours.
Et graphiquement, c'est toujours très drôle, hein. Faut aussi
Ouais,
préciser que
il y a
c'est
un style
vraiment
particulier, mais qui correspond vraiment à cette série, quoi.
un style plus, je dis toujours plus européen. Enfin, je sais pas, j'arrive pas vraiment à le qualifier, mais en tout cas, ça me fait pas penser à un comics, quoi, quand
Bah,
tu vois ça.
c'est du style indé, quoi.
Ouais.
Indé pour les comics.
Indé pour les comics, mais en tout cas, oui. En tout cas, on se doute pas que c'est américain, quoi, forcément, quand tu vois ça.
Donc voilà, il se retrouve avec donc son ancien partenaire, ils sont contents. Son partenaire est quand même un sacré gros con. C'est le
Ouais,
mec
mais
qui va
ouais.
secouer quand même
Bah, il fait
les
son vide maquée,
informateurs.
quoi.
Ah, oh, complètement. Complètement.
Voilà. Dans cette première histoire. Donc
On va parler
on laissera
dans
la
les
lecteur
news
découvrir.
de ce fameux Vic Mackey d'ailleurs. Bah, l'histoire avance, etc. Ce qui se passe vraiment, puisque cette première enquête est vraiment indépendante, elle permet de lancer le plot du deuxième arc. Mais ça a rien à voir avec la suite, quoi. C'est-à-dire que ensuite, Tony Chou va partir sur une île qui s'appelle Yamapalu, qui est une petite île qui a décidé de suivre cette nouvelle régulation des États-Unis d'interdire le poulet. Et ils ont découvert là-bas une plante qui, une fois cuite, a le goût du poulet.
Ça doit être sacrément dégoûtant. Moi, j'essayais de m'imaginer, tu vois, une espèce de fruit comme ça, qui une fois cuit avait vraiment le goût du poulet. Alors je me dis cru, quel goût ça peut avoir? Et justement, ça fait partie de cette intrigue.
Apparemment cru, ouais, ça n'a pas le même goût. Qu'est-ce qu'on peut dire sur cette intrigue? On rencontre des nouveaux personnages.
Oui, alors juste une petite déception. On rencontre des nouveaux personnages qui parfois font vraiment des apparitions éclairs.
Oui, bah, on a cette fameuse Saewoo,
Ouais.
qui est ni plus ni moins que Black Widow.
Totalement.
Je dirais même le
Totalement.
costume.
Ouais.
Mais Black Widow avec une espèce de paire, par contre, c'est impressionnant. Tu ne vois que ça.
Ouais. Tu ne vois que ça. Et d'ailleurs, elle arrive à faire des trucs avec ses jambes. Assez impressionnant, sachant que moi, si j'avais été dessinateur, j'aurais dessiné le pied de l'autre côté. Enfin, je sais pas si tu vois la scène de l'ascenseur.
Oui,
Mais j'avais l'impression qu'elle s'était disloquée la jambe, tu vois, sur le dessin. Enfin, ça m'a fait mal, quoi. Mal dans l'entrejambe. Enfin, bref. Voilà.
Donc,
Faut voir le dessin pour comprendre.
cette CIU travaille pour une autre agence gouvernementale, la USDA, c'est-à-dire le département de l'agriculture, et elle enquête sur quelque chose. Et elle a peur que justement l'intervention de Tony Chu, qui est là d'ailleurs de son propre chef, hein, c'est pas le bureau qui l'a envoyé, c'est lui qui a décidé de suivre cette piste de lui-même.
Oui.
Elle a peur qu'il intervienne dans son enquête et qu'il récupère enfin en gros tous les honneurs, quoi, puisque le FDA est dans la hiérarchie au-dessus du USDA.
Ouais. Et du coup, en plus, précisons aussi que Tony Chou part sans son partenaire, du coup, sur cette
Oui,
enquête.
son partenaire est là pour le couvrir aux États-Unis. En
Ouais.
attendant, quoi.
Et ce qui va, d'ailleurs, ce qui prête confusion avec la couverture, puisque la couverture montre les deux protagonistes en face d'une table avec ce fameux fruit, alors que bon bah finalement c'est pas vraiment ce qui se passe, quoi. Bon,
Non, pas
c'est
exactement.
pas grave, hein, mais c'est juste que voilà.
D'ailleurs, j'ai
Ça.
beaucoup aimé la manière dont son partenaire a réussi à gagner du temps pour Tony Chu avant qu'il
Ouais,
revienne.
exactement, exactement.
C'est L'image était atroce.
Non, mais il y a énormément de choses très drôles. Il y a ce passage où Tony Chou se retrouve en prison, déjà.
Oui, si. Mais
Ah,
il y a le rat aussi, le rat justement de Sayu, Jelly Bean, le petit rat qui lui sert à
ah oui.
s'infiltrer avec des upgrades lui aussi, une
Alors,
caméra, un
en
microphone.
français, comment il s'appelle Jelly
Jelly
Bean?
Bean, qui est le
Oui,
nom d'un
parce que
bonbon en
en
fait.
français, ils l'ont traduit par Dragibus.
Oui, c'est le nom d'un bonbon, Jelly Bean.
Voilà, exactement. Bah, ça doit être celui-là d'ailleurs. Ça doit être en anglais. Ça va s'appeler des Jelly Beans, alors.
Ouais, c'est quasiment ça, ouais. Ça ressemble énormément. On a aussi le retour du frère de Tony Chou, qui était un cuisinier qui avait pété les plombs à l'antenne en disant qu'il voulait
Totalement, oui.
cuisiner du
Qui
poulet, qui
bosse à
d'ailleurs ne
présent sur
pense qu'à
son
ça.
poulet.
Il ne pense qu'à ça, recuisiner du poulet. Il y a énormément de choses. Par contre, on peut pas rentrer dedans si on n'a pas lu le premier, quoi. C'est vraiment, vraiment impossible. On va rien
Totalement.
comprendre.
Totalement. Et le problème avec cette édition de Delcourt, alors le problème c'est un petit problème encore une fois, mais comme tu disais, si on n'a pas lu le premier, on ne s'en sort pas. Et malheureusement, comme pour au contraire d'Invincible, où il y a des fiches personnages, et ben là on n'a pas les fiches récapitulatives avec l'histoire des
Mais
personnages.
elles n'y sont pas en anglais non plus.
Ouais. Et c'est dommage, alors je sais pas si c'est Delcourt qui les fait elle-même pour Invincible. Ou si c'est ils reprennent du matériel original, au fait.
Il y a du matériel original, je crois.
D'accord. Ou comme Walking Dead d'ailleurs. Walking Dead, c'est super pratique aussi, puisqu'il y a, ça, et sur Tony Shoe et sur Irredeemable, on n'a pas ça, donc c'est un peu dommage.
Ce qui est dommage, c'est que sur Irredeemable, là, ils disent, par contre.
Ouais. Voilà, ça n'avait pas été repris pour l'édition française. Bon, alors c'est peut-être un petit oubli et ce serait bien de les ajouter si possible, dans la mesure où c'est toujours dur de se remettre dans le bain. Et comme tu disais, bah si on n'a pas lu le premier volume, là pour Tony Shoe en l'occurrence, c'est très dur, quoi.
C'est une super série.
C'est une super série que tu n'apprécierais pas autant si tu n'avais pas lu le premier de toute
façon. Ah non, impossible.
Ouais.
Il y a d'autres personnages hein, qui font leur retour, on va pas tous les citer. Mais voilà, pour Tony Shoe, c'est assez agréable en tout cas.
Ouais, exactement. De toute façon, si, il y a quand même cette nana. On peut le dire.
C'était celle que je voulais pas nommer, mais c'est pas grave, tant pis. Vas-y.
Oh bah, on se doute qu'on la revoit, mais justement, moi, j'ai été un peu déçu parce que pour le moment, on la voit pas trop quoi dans cette partie. Elle joue un rôle qui est pas super super important.
Ah, ça va avancer tranquillement quoi. Ce qui est bien, c'est que l'histoire générale avance. Le plot général avance vachement.
Le plot général, et puis il y a cette intrigue aussi. L'épisode que j'avais le moins aimé dans le premier volume, c'était cette intrigue avec les vampires qui sortait de nulle part. Et là, on a des éléments de réponse déjà.
Donc j'imagine qu'avec le recul, tu apprécies un peu plus cette histoire.
Avec le recul, ouais. Non, mais je commence à voir où ça peut aller. Et oui, effectivement, oui, avec le recul, oui. C'est-à-dire que sur le premier, je me suis dit, bon, elle est un petit peu inférieure aux autres. Bah, c'est-à-dire qu'elle était moins drôle déjà, tu vois. Enfin, je sais pas. C'était l'histoire que j'avais le moins appréciée. Et puis là, sur le tome 2, en tout cas, globalement, c'est vraiment dans la continuité du premier et c'est fun du début à la fin. Il n'y a pas de temps mort.
Il y a l'histoire du coq Puyo.
Ah oui, aussi.
Qui reviendra, hein. Ça a été annoncé dans les letter pages dans les VO. Il reviendra dans l'épisode 12.
D'accord.
Ils nous l'ont dit d'entrée de jeu. Donc. Ouais. On verra bien. C'est vraiment complètement fou. C'est un univers vraiment barré à souhait, mais c'est super drôle.
Oui, c'est un univers barré à souhait, et puis on sent aussi le côté futuriste avec quand même son collègue, comme tu disais. Enfin, c'est complètement dingue, quoi, tout ce qu'il arrive à faire.
Oui, bah oui, mais voilà, ça se prend pas au sérieux et c'est tant mieux finalement. Donc moi. Voilà. Pour moi, c'est une super bonne lecture, et si vous n'avez pas encore essayé, bah, achetez le 1 et achetez le 2, c'est vraiment très très bon.
Et puis, pour un truc qui parle de bouffe, ça se digère très bien. c'est pas un digeste à lire.
Puis il y a certaines images qui le sont quand même.
Ouais, mais ça passe bien avec les dessins.
Quand on le voit bouffer des cadavres, c'est légèrement indigeste quand même.
Ah oui, c'est vrai, il y a ce passage aussi, ouais. Oui. Et puis quand on voit en plus la tête du cadavre et tout, oui, mais enfin... C'est tellement drôle que ça passe tout seul.
Complètement.
Voilà, donc très bonne sortie librairie. Il y en aura d'autres qu'on traitera dans le prochain Comic City, évidemment. Mais en tout cas, là, au rayon librairie, Tony Shoe, c'est vraiment à ne pas rater.
Une superbe série d'Image.
D'Image Comics chez ouais. Delcourt. Et on repasse, peut-être, du coup, au kiosque.
Au kiosque, au kiosque Panini, donc retour sur les publications Marvel. Et on va aller vers le côté Avengers cette fois-ci avec le Marvel Heroes numéro 2. Les deux premiers épisodes du mag, ce sont les Hulk numéro 20 et 21. Jeff Loeb au scénario, Ed McGuinness au dessin, Mark Farmer à l'ancrage. En plein crossover Fall of the Hulks, avec quand même un gros souci de compréhension cette fois-ci à déplorer.
Ouais. Un souci de continuité, c'est-à-dire que le crossover est publié de manière que... en fait. Toutes les séries, donc Hulk, Incredible Hulk et Red Hulk, du coup, se retrouvent publiées dans différents magazines. Et comme là, on a deux épisodes à la suite, et ben forcément, quand on lit, par exemple, Marvel Heroes, avant de lire... Marvel Stars, ouais. Et ben, ça nous spoil des choses qui se passent en même temps dans Marvel Stars, quoi.
D'ailleurs, ça me fait penser que nous avons totalement oublié de parler d'une news. Ah. Mais alors, totalement.
Ouais.
L'opération Flash Forward qu'a lancé Panini.
L'opération Flash Forward.
Panini a décidé de réduire les délais.
Ah ben oui, c'est vrai.
Ils ont décidé de réduire les délais de traduction à 7 mois, je crois.
Oui, t'avais vu ça sur leur Facebook. C'est vrai que tu n'as pas fait news Panini cette fois-ci. D'habitude, on en parle un petit peu des faits.
Ça m'est complètement sorti de la tête.
Ouais. C'est là on va dire les deux. On parle un petit peu des publications françaises et de Panini, Delcourt, etc. Des dates de sortie. Et c'est vrai qu'on n'a pas fait cette news. Bah écoute, c'est le moment. Alors parlons-en. Justement, puisque c'est à l'image de ce qui se passe là, donc.
Ils ont décidé d'accélérer les publications de manière à ce que justement on ait moins de retard vis-à-vis des États-Unis, afin de bah, aussi de récupérer des lecteurs qui se sont tournés vers les TPB VO,
Ouais.
puisque
Alors, le but, c'est de passer de 9 mois de décalage à 7.
ouais 7, 6, je sais plus trop, 7, je crois.
Et donc, ils annoncent plus de titres kiosques, plus de hors-série, ça commence déjà, plus de, il y aura Marvel Top qui va arriver avec justement la partie Red Hulk, donc on est vraiment en plein dedans là, avec ce qu'on va traiter. Et d'ailleurs,
Et donc, ils veulent que le délai soit réduit d'ici la fin de l'année,
ouais, et
normalement même
j'espère qu'il n'y
avant.
aura pas trop de bêtises de fait, parce que déjà que quelquefois c'est vraiment l'anarchie. S'ils essayent d'en mettre encore plus, ça risque d'être compliqué. Et là, ça commence, puisque regarde, on a Incredible Hulk, on a Hulk, pas dans le bon ordre de lecture, puisque du coup, les épisodes ne s'entrecroisent plus. À la rigueur, ils auraient mieux fait de mettre un Hulk et un Incredible Hulk dans un magazine,
Ouais.
et un Hulk et un Incredible Hulk dans un autre,
Je
et
suis
te
entièrement
dire,
d'accord.
lisez tel magazine avant tel autre, tu vois, plutôt que de mettre deux Hulk de suite et deux Incredible Hulk de suite dans deux magazines différents.
Bah, comme ils nous avaient
D'autre
fait pour
part,
Siege, quoi, tout
d'autres
simplement.
Et d'autre part, Marvel Top avec Red Hulk ne sort que dans quelques jours, il n'est même pas encore
Oui, mais
sorti à l'heure où j'enregistre.
c'est une mini-série, donc c'est
Ah oui,
franchement.
non, non, mais c'est tie-in à ça, quoi, à ce qui se passe.
C'est taïn, mais c'est une mini-série, donc on sait très bien que c'est pas non plus essentiel à la lecture, quoi.
Ouais, enfin bon, si on voit des choses qui se passent en même temps, bon. Enfin, c'est vrai que là, on comprend quand même l'essentiel, mais bah
Donc,
écoute.
on va revenir sur l'histoire de Hulk quand même. C'est l'anniversaire de Storm. Donc sont invités au Wakanda pour le fêter Beast, Cyclops, Angel et Iceman. Et là, le Red Ghost débarque, enfin le fantôme rouge débarque avec ses singes pour enlever justement T'Challa. S'engage une grosse baston, le Red Hulk débarque, donc les X-Men le prennent pour cible, puisque c'est le Red Hulk, il n'est pas gentil.
Oui, voilà, c'est un petit peu le sempiternel. Les amis, les alliés s'affrontent avant de se rendre compte qu'ils sont dans le même camp et du coup ils vont se rassembler pour affronter un ennemi commun. Enfin bref, voilà.
Le sont-ils
Écoute.
vraiment dans le même camp, quoi?
Oui.
Bon, ça, voilà. Et donc finalement, le plan de Red Ghost marche, puisque il devait non seulement enlever T'Challa, mais aussi Beast, qui avait décidé pas de se joindre au combat, mais de continuer à poursuivre T'Challa.
Ah, c'est marrant, tu dis T'Challa, moi je dis T'Challa. T'Challa.
Ah bon.
Oui.
Non, moi je dis T'Challa. Bon, c'est pas grave.
Bon, écoute, on va encore se battre jusqu'à la mort pour savoir qui de nous deux a raison, hein, je pense.
Pour la 28e fois.
Oui.
Ça, c'est grosso modo le plot du premier épisode. Le deuxième épisode, on va en parler un petit peu aussi. Tant pis, on va être obligé de spoiler légèrement. Finalement, Hulk, accompagné de pas mal de héros, attaque le Helicarrier qu'il avait détruit dans les tout premiers épisodes et qui sert maintenant de base à l'Intelligentsia.
Ouais. Et alors, il y a un nom français ridicule. Alors, je l'ai pas sous les yeux, donc je vais pas le rechercher. Je peux pas le nommer. Mais le nom français, en fait, traduit pour le Helicarrier du leader, enfin voilà quoi, est vraiment grotesque. Et le pire de tout, c'est que c'est pas la même traduction pour les épisodes dans Incredible Hulk.
Super. Moi déjà rien que le mot intelligentsia en français, rajouter le T entre le N et le C, ça me fait rigoler quoi.
J'ai même pas fait gaffe au fait à
Ah
l'orthographe.
moi je l'ai vu ça. Ça m'a un petit peu hérissé le poil.
Ouais.
Enfin, bref. Du coup donc le Red Hulk lance le plan qui en partie conjoint avec ce que doit faire Bruce Banner, que l'on verra dans les épisodes d'Incredible Hulk, donc, et bah Bruce Banner ne répond pas, et ça dérape.
Oui, ça dérape sévère et il y a cette espèce de. Comment dire,
De
de
finale?
retournement, oui, de finale. Voilà, est-ce que tu l'as trouvé ridicule? Est-ce que
Oui,
tu.
totalement.
Totalement
Totalement. Je me suis
ridicule.
dit, ça y est, voilà, Jeff Lob nous refait du Jeff Lob du début de Hulk.
Ouais.
C'est dommage.
Mais en même temps, c'est logique, tu vois. En même temps, c'est logique, c'est un
C'est
truc qui
logique,
pourrait
mais
arriver.
c'est barré, quoi.
Oui.
Ça devient ridicule, quoi.
Ça devient ridicule. Et c'est dommage parce qu'il y a vraiment des intrigues intéressantes à côté. Des intrigues qui sont plus développées, je trouve, dans Incredible Hulk que dans Hulk. C'est vrai. Là, on fait la part belle au dessin avec des grosses bastons, quoi.
Donc, bon, ça nous amènera ensuite sur un nouveau crossover qui s'appelle World War Hulks, au pluriel. On
Mais
verra ce
enfin,
que ça va donner.
globalement, t'as bien aimé ces deux épisodes.
Mais non, c'est franchement, j'ai bien aimé. J'ai d'ailleurs préféré ces deux épisodes à Incredible Hulk, en fait. Je trouve la
D'accord.
lecture plus fluide et plus simple.
Oui, c'est sûr, ouais. Parce qu'il se passe plus de trucs et on se dit, mais attends, mais comment ça se fait? Voilà. Mais en fait, en gros, au début, je me disais, attends, c'est compliqué, mais au fait, non. D'un côté, t'as l'Intelligentsia, de l'autre, t'as Red Hulk et Bruce Banner. Et voilà, hein, c'est après les ce que j'aime bien, c'est le jeu de, enfin c'est hyper une partie de poker quoi qui se déroule entre les deux factions quoi.
Bon, de toute façon, on y revient tout à l'heure en parlant de
Ouais.
Marvel Stars. On
Ouais.
va passer à l'épisode suivant, c'est le Thor 611. Kieron Gillen au scénario, Richardson pour la partie graphique. Et ça commence sur les funérailles de tous les gens qui sont tombés à Asgard pendant Siege, ainsi que celle de Loki. Beaucoup plus intimiste.
Ouais, beaucoup plus intimiste.
Et c'est un épisode beaucoup plus centré sur la mythologie et sur les légendes.
Oui, notamment les légendes des Dir, je crois, c'est ça. Hein.
Les Dizir.
Ah, je crois qu'en français, c'est ils ont traduit par Dir, justement.
Ah d'accord.
Mais ce qui est marrant d'ailleurs, puisque justement, faut pas le dire.
Mais bon.
C'est tout le but du truc, quoi.
Finalement, l'épisode où on avait, alors c'était l'épisode spécial Siege, Loki, où on avait Loki qui faisait toutes ses manipulations avec Mephisto, avec Hela, etc. Eh bien, Kieron Gillen s'en sert totalement pour son histoire dans Thor.
Alors, il y a un magazine, je me permets de le dire, qu'on n'a pas chroniqué le mois dernier parce que c'était très dispensable, c'était le X-Men. Et dans l'épisode avec Ella, justement,
Ouais, c'était les New Mutants.
voilà, les New Mutants, on reparlait de ça et on reparlait justement de ces créatures mystiques.
Puisque Valkyrie devait rendre le service à Hela, et avec une lame spéciale, elle arrivait à combattre les Dizir.
Donc 2 mois de suite, on voit ces créatures. Et là, on en apprend d'ailleurs un peu plus.
3 mois, en fait, puisque je te dis, on avait le mois d'avant encore la fin de Siege, les
Ah
numéros
oui, c'est vrai,
spéciaux
oui.
avec tous les one-shots.
D'accord. J'avais même oublié l'histoire avec... Oui, t'as raison. T'as raison.
Voilà, on comprend un peu mieux les manipulations de Loki, qui a donné le contrôle des Dizir à Mephisto, tout en demandant que Mephisto accorde une place à Hela en enfer pour qu'elle puisse rebâtir un royaume et accueillir les morts d'Asgard. Et voilà. Et donc Loki continue ses manipulations et même mort, elles ont encore lieu. Voilà.
Ouais, et c'est très gore.
C'est gore, ouais, mais
Non
moi
mais
j'ai trouvé ça
quand même,
super bon.
il y a quand même ce passage où le mec donc prononce leur nom et se retrouve découpé en morceaux qui est vraiment très graphique. Plus que d'habitude, j'ai trouvé sur la série.
Moi, franchement, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, là, en tout cas, la direction que donne Kieron Gillen au titre. Il se recentre sur le côté mythologique de Thor. Le seul petit point noir, si je veux vraiment en trouver un, c'est que Thor est finalement un figurant dans les pages.
Ouais, justement, j'étais moins enthousiaste que toi sur l'épisode, c'est-à-dire que justement, ça te parle surtout de cette mythologie, mais il se passe pas grand-chose, on apprend rien de vraiment de plus, quoi.
Ah bah si, on a toujours ces manipulations de Loki qui continuent quoi.
Oui, malgré mort, ouais, c'est vrai. Mais bon, enfin, on se
Et dans
doute
quel
que...
moi dans quel but? C'est surtout ça qui m'inquiète.
On se doute de comment ça va finir. Enfin, moi, je pense que, ils vont vite se débarrasser de cette menace et on va passer à autre chose, quoi.
Là on verra. Je sais pas du tout.
On va voir ça prochainement, mais ouais, enfin, épisode sympa. Et on
On
passe
passe
à...
au dernier épisode du mag, le Avengers numéro 2, Brian Bendis au scénario, John Romita Jr. au dessin, Klaus Johnson à l'ancrage. Donc, les Avengers vont recruter un nouveau membre pour les aider à voyager dans le temps et aller empêcher cette fin du monde que leur a prédit Kang, et surtout d'empêcher que leurs enfants du futur deviennent des tueurs, qui
Ouais.
détruisent toute la réalité. Et ils vont recruter Marvel Boy. Le dissident des Dark Avengers, qui se fait appeler maintenant le Protector.
Voilà, un nom un peu ridicule quand même. Parce que je me demande pourquoi on n'avait pas pu. Pourquoi ils ont pas gardé Marvel Boy, quoi? Y a
Parce
pas de
qu'il
Marvel
voulait.
Boy.
Parce que je pense que lui-même voulait changer d'identité, puisqu'il a évolué, il le dit lui-même, que maintenant il commence à de mieux en mieux comprendre les humains. Il a envie de changer, de les protéger, etc. D'où le fait qu'il change totalement de nom.
Ouais, enfin Protector, merci. Protector.
Donc il le recrute puisque comme c'est un Kree, il a des connaissances scientifiques très avancées et ce serait le seul qui pourrait l'aider à construire une machine temporelle.
Ouais.
Donc,
Généralement, on pense à Doom pour ça, mais bon.
oui non bah c'est pas forcément l'allié de choix. Du coup, il réussit à construire cette machine. On a une scène dont je parlerai plus tard, parce que j'en parlerai plutôt à la fin sur le ressenti par rapport à l'épisode. Une scène avec Tony Stark. Là, il voit les différents futurs et alors là, on a une petite scène sympa où on voit différents futurs de l'univers Marvel, Days of
Ouais.
Future Past, l'univers MC de 2099,
Oui,
entre
tout à fait.
autres. Et puis cette fameuse séquence où ils voient leurs enfants tuer Immortus.
Mais John Romita Jr. s'est assez fait plaisir sur cette splash page. Mais par contre, il y a quand même des dessins assez dégueulasses. Le dessin du... On se croirait revenu à l'époque où il dessinait quasiment Iron Man. Tu sais, quand il a commencé à dessiner un petit peu cubique, quoi. Et voilà, bon, là on a l'impression qu'il a vraiment régressé. Et l'espèce de page avec l'énorme machine, où tu vois... Enfin, tu aperçois, on va dire, les autres en arrière-plan en train de manger des pizzas. C'est tellement mal dessiné, c'est tellement fait à la va-vite, que tu te dis non, franchement, il faudrait qu'il prenne plus de temps
Bah,
pour
il se fait
terminer,
plaisir
quoi.
avec la machine, il essaie de nous faire du Kirby.
Ouais, mais oui, mais enfin, quelquefois il y arrive,
Ah,
mais
j'ai dit, il
ouais.
essaye.
Là, c'est une question de délai. Et si c'est pour nous faire des dessins comme ça, c'est pas la peine. C'est pas la peine. Parce que tenir les délais, c'est bien, mais bon, on préférerait encore avoir une série mieux dessinée, quitte à remplacer John Romita Jr., quoi, s'il peut pas tenir la cadence. Si tu peux pas tenir le rythme et produire un travail correct tous les mois, bah c'est pas...
Ouais, je suis un petit peu d'accord avec toi sur ce point-là.
C'est un petit peu de la bouillie, quoi, quelquefois. Sur certaines pages, franchement. Alors que d'autres, ça va. Par exemple, la page avec Wonder Man est bien. Quand il est sur la page totalement, enfin, ça va,
Ouais,
quoi.
je vois
Ouais.
celle dont tu veux parler.
Alors que d'autres, par exemple, les ennemis qui débarquent à la fin, non. Au secours.
Bah justement, donc tu en parlais, on a Wonder Man qui les attaque, qui les avait prévenus que s'ils reformaient les Avengers, il serait pas content, et là il est pas content.
Oui, c'est un peu ridicule. Il arrive comme un cheveu sur la soupe, et puis du coup, bah la machine est déréglée. Mais même pas par sa faute d'ailleurs, je crois.
Non, elle pète avant.
Elle pète avant, et du coup ils
Elle
sont
pète avant puisque la ligne temporelle est brisée.
ouais. Et ça part dans tous les sens, et on se demande même où ça va, puisque on pensait les voir partir vers le futur pour régler cette histoire avec leurs enfants. Et bah non.
Ce sera pas pour tout de suite, hein, puisque une bande d'ennemis apparaît.
Qui sont aussi ridicules que les ennemis qui apparaissent à la fin de l'épisode de Hulk. Pour moi, c'est
Oui.
bonnet blanc et bourbonnais.
Oui et non, c'est l'avantage, c'est que ça, c'est de mélanger les ennemis, chose qu'on aimerait bien voir un peu plus souvent, c'est-à-dire des ennemis qui ne sont pas des ennemis de tel et tel personnage apparaître.
Là, c'est des versions particulières quand même.
Oui, là oui, bien sûr, parce qu'il y a des problèmes temporels. D'ailleurs, Bendis nous le répète assez tout au long de l'épisode. Si le temps, la ligne temporelle, elle est cassée partout. C'est pas la peine de nous répéter trois fois, on a compris la première, quoi. Cher Bendis prend littéralement les lecteurs pour des cons. Et là, ça m'a franchement fait chier. Moi, c'est un épisode que j'avais déjà lu. Bah pour les weekly notamment, sans chroniquer, hein, je l'avais lu pour rattraper du retard. Et là je l'ai relu en y prêtant beaucoup plus d'attention pour en faire une review. Et franchement mon ressenti c'est que c'est qu'une grosse merde.
Ben 10 ou l'épisode?
L'épisode. L'épisode est une grosse merde. Et Bendis se fout de notre gueule. Franchement, voilà quoi. Je veux dire, on a un Tony Stark qui sonne totalement faux, qui est out of character quand il harasse Marvel Boy de questions en lui disant « Mais si tu vas venir travailler pour moi? » Et le mec lui dit « Non, je travaillerai pas pour toi, j'ai pas envie, tu sais très bien que je peux pas vous donner des choses trop avancées. » Le mec fait « Sinon, mais si de toute façon, t'inquiète pas, tu vas venir travailler pour moi, j'ai des moyens et tout, tu viendras travailler pour moi quoi qu'il arrive. » Ça m'a paru mais tellement pas Tony Stark, quoi. Donc je sais pas ce que fout Bendis, faut qu'il sorte les doigts du cul, peut-être le poing même du cul totalement, parce que là, c'est pas possible. Doit taper au clavier avec son nez, je sais pas, pour écrire des merdes pareilles. Moi, franchement, pour moi, Avengers, c'est une daube. C'est une daube.
Mais
C'est la...
moi
Avec...
je préfère quand même Avengers à New Avengers, d'une manière générale, parce que New Avengers, je trouve qu'il refait exactement ce qu'il avait fait sur New Avengers avant, et qu'on retrouve toujours les mêmes histoires, et ça me fait chier. Là, il y avait...
Ce qui est vrai aussi, mais je préfère qu'ils nous refassent les mêmes histoires qui marchent, plutôt que des histoires nouvelles qui sont vraiment nulles à chier.
Bah, la fin de cet arc, moi j'ai enfin la partie où ils sont dans le futur, j'ai plutôt bien aimé. Mais bon.
Oh,
Bon, on en reparlera quand on y sera,
dans
puisque
les
là,
prochains mois.
effectivement, les parties 2 et 3 sont totalement inutiles, on peut le dire.
Donc non, moi franchement je m'emmerde totalement et voilà, vivement, vivement qu'on passe à la suite. Je veux dire de l'histoire, hein.
Oui, bien sûr.
Un autre arc.
Et puis, de toute façon, on va passer à la suite vraiment,
Et puis bah
puisque...
et puis n'hésitez pas à nous donner votre avis, quoi. Je veux dire, si vous aimez ou si comme moi vous n'aimez pas, venez nous le dire, quoi.
Ouais, et dites-le
Venez
avec
nous
des
le dire.
mots, peut-être pas comme Steve.
Moi aussi, vous pouvez dire que c'est de la merde. Vous avez le droit d'ailleurs aussi de dire que New Avengers, c'est de la merde, ce que vous voulez, quoi.
Ou Comic City, puisqu'on l'a vu dans les mots, dans les recherches Google, Comic City de merde, hein, le fameux. Donc là aussi, vous avez le droit, hein. En plus, ça nous fait des mots-clés qui sont assez drôles.
Juste pas les mamans et pas les fringues.
Voilà, exactement. Et peut-être un avis général sur le magazine de ce mois-ci, en demi-teinte,
Bon.
quoi.
Oh, moi je le trouvais bon quand même.
plutôt bon, à part Avengers, quoi.
À part Avengers.
D'accord. Bon, bah alors, donc, un Marvel Heroes, hein, c'est ça? Parce qu'à fond, je ne sais plus.
Si,
un Marvel Heroes qui est plutôt pas mal. Et on va continuer avec Marvel Stars, qui est du même tonneau, on va dire.
On va d'ailleurs terminer, puisque c'est la dernière review de cette quinzaine, le Marvel Stars numéro 2. Le premier épisode, c'est le Secret Avengers numéro 2. Ed Brubaker au scénario, Mike Deodato et Will Conrad sur les parties graphiques. On a l'équipe des Secret Avengers qui se retrouve sur Mars, qui vont chercher Nova, car oui, c'était Nova, le fameux membre mystère des Secret Avengers. On n'avait pas révélé l'identité le mois dernier.
Bon, ah bah si.
Non, on n'avait pas dit qui c'était.
Ah, nous, oui, d'accord, oui, non, oui. Je comprenais pas. Je pensais que tu disais dans l'histoire.
Si, on savait qui c'était.
Je me disais,
nous,
mais
on l'avait
pas
fait.
Oui,
oui, aussi, mais...
Oui.
C'est bien connu. Mais... Du coup, bon, déjà, qu'est-ce que vient foutre Nova dans les Secret Avengers? Ça, j'ai toujours pas compris.
Bon, même, qu'est-ce qu'ils viennent foutre tous dans les Secret Avengers? Pourquoi les Secret Avengers? C'est la question que je me pose. D'ailleurs, même Brubaker s'est posé la question, et au bout de 12 numéros, comme il avait pas la réponse, il est parti.
Donc, ils sont attaqués par des membres d'un truc.
On ne sait pas. D'ailleurs, on ne sait pas.
C'est pas trop, voilà. Parce qu'ils ont des uniformes, voilà.
Ouais.
Contrôlés.
Oui.
D'ailleurs, mentalement.
Ouais. Et il est juste que les décors, en tout cas, les dessins de Deodato sont plaisants.
Ah oui, c'est super agréable. De toute façon, c'est du Deodato. Bon, on aime, on n'aime pas. Moi, j'aime bien.
Puis là, l'ambiance sur Mars est plutôt pas mal, ça fait très très justement film d'horreur, science-fiction, on se dit mince, qu'est-ce qu'ils vont découvrir, il y a des morts partout, qu'est-ce qui s'est passé quoi. Et malheureusement, l'intrigue est pas passionnante.
Bah, l'équipe se scinde en plusieurs petites équipes ensuite pour suivre différentes pistes, savoir pourquoi il y a des gens bizarres qui sont contrôlés, plein de choses comme ça. Et pendant ce temps-là, Sharon Carter sur Terre, qui s'était fait agresser à la fin du dernier épisode, qui s'était fait dérober l'espèce de couronne qu'ils avaient trouvée.
Oui, tout à fait.
Décide de traquer ceux qui l'ont dérobé, justement.
Et on voit cette espèce de Nick Fury. Alors, est-il Nick Fury? Et si oui, pourquoi agit-il comme ça? Voilà. Eh bien, on aura des éléments de réponse dans les futurs épisodes, puisque c'est vraiment l'une des intrigues clés de Brubaker sur Secret Avengers.
Et puis, bon, vers la fin, on a un gros gars en armure qui débarque.
Ah bon?
Qui est-il? Oui, devant Steve Rogers et je ne sais plus qui d'ailleurs. Et qui dit que les humains sont fous d'avoir pris la couronne.
Ah oui, ah là là là. Bah, j'avais complètement oublié. Mais ça se termine surtout sur un final très attendu, enfin très convenu. Il retrouve Nova, et là on va pas dire ce qui se passe, mais bon, on peut le deviner. Hein. Enfin moi je l'ai vu arriver à 14 000 km quoi. À la distance entre la Terre et Mars quoi. Ça ouais. Fait plus de 14 000 km, je le sais bien.
C'est de l'action, est-ce que c'est vraiment Black Ops comme on nous l'avait dit au départ? Pas vraiment.
Non. Non, ça me rappelle un épisode des Avengers, comme en fait c'est vraiment les Avengers d'avant qui, rappelle-toi, étaient souvent amenés à aller dans l'espace, sur Mars, etc.
Oui.
Enfin, de toute façon, ce qui est ridicule d'ailleurs, tu fais bien de le dire, ce qui est ridicule c'est de dire Black Ops alors que sur Mars, à quoi ça sert d'être Black Ops?
Il y a personne.
À quoi ça sert de t'infiltrer sur Mars? Il y a personne, bah oui.
Ils sont tellement Black Ops qu'ils vont là où il y a personne pour les voir.
Non, enfin voilà, c'est même dans le but avoué de la création de l'équipe, c'est absurde. C'est intrigue.
Donc vous aurez compris, on n'est pas fan de Secret Avengers. Donc.
Non, je trouve ça chiant. Chiant. Bah, voilà.
Tu sais quoi, malgré tout, je préfère ça à Avengers. En deuxième lecture, j'ai préféré relire cet épisode que relire l'épisode d'Avengers.
Moi, je sais pas, parce que de toute façon, celui-là, ouais, effectivement, parce que moi, je l'avais pas lu cet épisode de Secret Avengers, donc
moi, je l'avais lu aussi.
Mais bon, c'est pas folichon, quoi. On va passer peut-être à la suite.
Oui, la suite, ce sont deux épisodes d'Incredible Hulk, numéro 607 et 608, Greg Pak au scénario, Paul Pelletier au dessin, Danny Mickey à l'ancrage. Donc on a l'autre partie de Fall of the Hulk, qu'on va essayer de faire plus rapide, puisqu'on a déjà pas mal parlé du plan. L'Intelligencia continue d'enlever les membres, les grands scientifiques.
Je sais plus si on l'avait dit, mais dans le deuxième épisode de Hulk, on apprenait justement que l'un de ses membres avait été enlevé, alors qu'on l'avait pas vu, justement.
Oui, c'est ce dont on parlait quand on parlait des spoilers.
Ouais, exactement. Donc,
là, il s'agit de Hank Pym qu'il cherche à enlever. Alors, vont-ils réussir ou pas? Bon, bah oui, hein, puisque on vient de le dire.
Oui, exactement.
Le Red She-Hulk attaque les Avengers. Banner et Scar débarquent pour essayer de les aider. C'est de la grosse baston. En fait, comme je disais tout à l'heure, j'ai préféré les deux épisodes de Hulk car je les ai trouvés plus fluides à la lecture. Parce que là, il y a tellement de retournements de situation.
Oui, oui, oui.
Il se passe tellement de choses que ça en
Oui.
devient hyper compliqué.
Hyper compliqué parce qu'on sait plus qui avec qui, quelles sont les
Oui.
alliances. C'est-à-dire que Red She-Hulk, à un moment donné, elle attaque des gens, et puis j'ai pas compris au fait si elle était si elle voulait aider Bruce ou si vraiment enfin donc dans quel
Ils ont fait une alliance temporaire parce que le rayon qu'elle a utilisé allait tuer Hank Pym, alors que le but c'est de l'enlever vivant et non pas de le tuer.
Ouais.
Donc c'est pour ça qu'ils ont fait une petite alliance temporaire. Le souci aussi qui rend la lecture compliquée, je trouve, c'est pas les dessins de Paul Pelletier qui sont beaux, hein. Moi ça me convient parfaitement comme type de dessin, c'est juste la mise en page qui est brouillon, je trouve.
Ouais, la mise en page est assez, enfin y en a trop quoi. En fait, ça t'explose les yeux, c'est trop garni, trop fourni par moment.
Avec les cases qui sont pas toujours droites, qui sont même très
Ouais.
souvent mises en oblique, etc., qui finalement brouillent plus la lecture que rendent le dessin et la chose à l'œil est vachement plus agréable.
Avec l'ancrage qu'a Pelletier, ça me fait penser par, enfin limite à du Finch par moment.
Mais oui, c'est l'animiki qui ancre, donc
Ouais. Voilà.
il y a toute cette vague assez au départ image, quoi.
En tout cas, c'est plutôt pas mal. Et puis il y a ce final quand même avec Bruce Banner qui était assez sympa.
Le piège du leader s'est refermé finalement. Eux qui croyaient être plus intelligents que le
Ouais.
leader réussit son piège et donc le final dont on n'a pas parlé dans Hulk et dont on ne va pas parler maintenant, mais qui lance là le nouveau crossover World War Hulks.
Ouais.
Donc bah pour une meilleure lecture, alternez si vous n'avez pas encore lu les magazines, lisez le Hulk 20 puis le Incredible Hulk 607 ou inversement, n'importe, hein, et puis revenez ensuite alterner les magazines.
Là, je sais plus au fait dans quel ordre c'est, puisque tu vois à un moment donné les gens qu'ils ont réussi à enlever, ou bien alors ça se passe en même temps, je sais plus.
D'ailleurs, il y a un truc que je comprends pas. Ils étaient censés enlever les 8 personnes les plus intelligentes de la planète.
Ouais, ils
Moi,
sont pas enlevés.
j'en ai compté 5. 5 d'enlever. Pas 8. Bon, si on compte Banner à la fin, 6. Allez.
Ouais, il n'y a pas Amadeus Cho.
Non, il est que le 10e apparemment, d'après ce que dit
D'accord.
Banner. Donc, est-ce que le leader ferait partie de ces 8?
Ah peut-être qu'il va se joindre.
Et
Bah
Modoc?
à mon avis, enfin ils se considèrent comme. Je veux dire, si eux-mêmes ne se considèrent pas comme faisant partie des 5 plus intelligents, enfin des 8 plus
Alors, il y a
intelligents.
Tony Stark, qui à ce moment-là, puisque c'est vraiment, il y a un petit problème de temps, les épisodes sont beaucoup plus anciens. Les épisodes de Hulk sont beaucoup plus anciens, ils sont datés du mois d'avril, je crois, quelque chose comme ça, avril-mai, alors que
Ouais.
les autres sont datés du mois de juillet ou
Ouais.
août. Donc Tony Stark est encore de moitié dans le coma, donc il s'est détruit le cerveau, je sais plus trop à quelle époque on est. Donc de
D'ailleurs,
toute
c'est
façon.
bien précisé et c'était pas plus
Oui.
mal, en fait. Niveau continuité et lien avec le reste de l'univers Marvel, c'est plutôt bien foutu, quoi.
Oui, complètement. Puis on a beaucoup de guest stars, beaucoup, beaucoup de guest stars, que ce soit
Ouais.
dans les épisodes d'Incredible Hulk comme les épisodes de Hulk.
Ouais,
Il y a
tout à
énormément de
fait.
monde.
Et oui, et puis il y a aussi ce personnage dont on n'a pas parlé, qui est je sais plus, le colonel Talbot.
Comme Talbot, oui, bien sûr.
Talbot, et puis, ben, on peut le dire quand même, il y a Betty, hein.
Betty Ross.
Betty Ross qui est de retour, ou en tout cas il semblerait que ce soit elle, donc est-ce vraiment la vraie? Et aussi toute cette intrigue.
Oui, il y a aussi tout le plan. Banner expose son plan à tout le monde. Il dit la vérité, pourquoi il fait ce qu'il est en train de faire, ce qu'il essaye d'empêcher. Enfin, dit-il vraiment la vérité à tout le monde?
Et on apprend qu'il a appris, lui, la véritable identité de Red Hulk
Oui.
aussi. Et pour le moment on ne sait pas. Et
Bientôt.
bientôt, ouais, avec les explications qui vont bien. Moi, j'avais beaucoup aimé l'épisode des origines. Bref, on en reparlera plus tard. On passe à la suite, je pense.
Bah oui, hein, donc ça reste bon quand même, dans l'ensemble, même si moi le final me déplaît. Le dernier épisode, c'est le Thunderbolts numéro 145, Jeff Parker au scénario, Kev Walker à la partie graphique. Donc on était resté sur le retour de Zemo, qui disait ce sont mes Thunderbolts, c'est moi qui ai créé l'équipe, donc venez avec moi.
Et là, Ah oui, d'accord, la grosse blague, quoi.
La grosse blague, c'était une ruse pour voir. Si les choses qu'ils avaient implantées dans ces nouveaux Thunderbolts,
Nunavut.
pour les empêcher justement d'aller trop loin et de leur faire faire ce qu'ils voulaient, marchent, tout simplement.
Ouais, bah moi ça m'a déçu, franchement. Déjà, d'entrée de jeu, je me suis dit, bon, d'accord, hein.
Oui.
La vieille excuse pourrie, quoi.
On a un nouveau gardien du raft, on a la personne du US Agent,
Oui, qui a bien perdu un bras,
qui a bien
d'ailleurs.
perdu un bras du coup. Ouais. Sans se demander s'il perdait vraiment son bras l'autre fois. Enfin, c'est moi qui me posais la question, donc oui, effectivement, il a bien perdu son bras. Et du coup, on a la première véritable mission des Thunderbolts, aller récupérer des trolls qui se sont échappés des prisons d'Asgard quand Asgard s'est crashé.
Ouais. Là, vraiment, t'as résumé l'épisode. C'est ça, quoi.
Voilà.
On peut pas
Bah,
vraiment en dire plus sans spoiler.
ça se lit relativement vite, et au final, il se passe pas grand-chose.
Non, il se passe pas grand-chose de nouveau. Mais moi, par contre, j'ai une nouvelle complainte à faire sur les Thunderbolts, un truc auquel j'avais pas pensé avant. Et c'est en lisant Comic Box, Xavier Fournier faisait un article sur l'état actuel des nouvelles séries Vengeurs. Il parlait notamment des Thunderbolts, et il disait très justement que Luke Cage, au fait, avait été en prison, mais qu'il avait été accusé à tort, en fait.
Bah oui.
Et là, au fait, son but est assez bizarre dans les Thunderbolts, puisqu'il veut réhabiliter des gens, mais qui n'ont pas subi d'injustice comme lui. C'est-à-dire, c'est vraiment des gens qui sont des criminels avérés. Donc, la question, c'est de savoir, mais pourquoi est-ce qu'il s'engage à faire ça auprès de gens qui, contrairement à lui, sont pas du tout des victimes qui ont besoin d'être réhabilités, mais vraiment des gros tueurs psychopathes. Quand tu penses que quand même le mec le plus... Bah, en fait, c'est quand même le tueur de Captain America, quoi, qui se retrouve dans l'équipe. C'est quand même bizarre de vouloir réhabiliter lui plutôt que... C'est comme si... Pourquoi pas Norman Osborn, quoi? Pourquoi pas Norman Osborn enfin, tu
Parce
vois, si
qu'il
tu
avait dirigé
réhabilites...
l'équipe,
Non, mais...
il n'accepterait pas de faire partie de l'équipe sans la
Non, mais
diriger de nouveau.
ce que je veux dire, c'est que si t'as Crossbones, c'est la porte ouverte à tout le monde. Je veux dire, il pourrait refuser personne.
Enfin, comme il le dit, on lui a imposé. Il n'a pas choisi, puisqu'il leur dit bien à un moment, je vous aurais jamais choisi, vous êtes une bande d'enfoirés, et voilà, je vous déteste.
Ouais.
Enfin,
Ouais.
grosso modo, hein, c'est
Ouais.
résumé.
Ça fait bien les choses, quoi, pour les scénaristes qui peuvent
Donc
s'amuser à mettre
voilà,
n'importe quel
on
personnage.
lui a imposé ces personnages-là, enfin ces gens-là dans son équipe, et lui il n'en voulait pas de cela. Il n'en voulait
Moi,
aucun.
j'avais oublié que Luke Cage avait été incarcéré sans être responsable En fait, il avait rien fait de mal, quoi. C'était vraiment un coup monté. Et j'avais oublié ce détail, et du coup, ça fait que la création de cette nouvelle équipe avec Luke Cage comme chef est encore plus bancale à mes yeux qu'elle ne l'était auparavant, quoi.
Bah, on verra comment on va continuer la série. Pour le moment, c'est juste moyen.
C'est juste moyen, puis graphiquement, je suis pas fan. J'avoue que bon, on peut aimer Kev Walker, mais moi je suis pas fan du tout, et ça tranche totalement avec les épisodes qu'on a eu avant avec Paul Pelletier, et puis dans un
Et
premier
puis
temps
Mike Deodato.
Mike Deodato, voilà. Et là, d'un seul coup, du Kev Walker, ça fait... Enfin, moi, ça va faire gueuler, mais moi, ça me pique les yeux. Il y en a qui adorent son style, mais pas du tout. Enfin, moi, par exemple, Songbird, c'est Songbird?
Oui, ah oui, j'aime pas du tout son nouveau look. Hein.
Oh là là, non, non.
Espèce de coupe en brosse avec la.
Bah, elle me
la...
rappelle Ariel dans les X-Men. Et voilà, non, moi je préférais nettement la Songbird sexy.
Par Mike Deodato, justement, ou ensuite on avait eu Roberto de la Torre quand c'était en
Enfin là,
Marvel.
oui, enfin, ou bien même à l'époque par Bagley, je crois, dans les premiers
Oui,
épisodes de
bah, bien
Thunderbolts.
sûr. Mais...
C'était enfin quand elle avait des cheveux longs, quoi, tout simplement, quoi. L'ancienne Songbird.
Cette
Là.
espèce de coupe en brosse avec un espèce de balayage rose moitié raté.
Ouais. Non, ils ont des têtes assez triangulaires, quoi, assez pointues. C'est pas super sexy. Bon, voilà. Il y en a qui adorent ce style, mais moi, je suis pas particulièrement fan. Donc voilà, bah, pareil, un bon mag quand même dans l'ensemble.
Oui, un mag relativement sympathique.
Parce
Voilà,
que.
on a décidé de pas traiter Icons parce que voilà, premier épisode de la nouvelle série New Avengers. À lire deux épisodes de Fantastic Four, on va dire que c'est bon, bien évidemment, puisque c'est bon, de toute façon. Et puis Iron Man
C'est bon.
qui est sympa, mais qui avance pas énormément, donc
Voilà. Non mais le truc c'est que bon, le New Avengers, pour avoir une review quand même, on en avait fait une dans Comics Weekly.
Je crois, ouais. J'ai pas regardé, j'ai pas vérifié le numéro. Bon.
Dans
Allez.
l'un des premiers, c'était notre double review de toute façon. Donc,
C'est possible. On va terminer ce Comic City avec des mails. On a reçu 3 mails d'auditeurs. Merci, déjà. Premièrement, merci de nous avoir écrit. Au
Merci de
temps,
nous donner du
surtout.
boulot. Sympa.
On commence avec un mail de Wazaman qui dit salut les jeunes et les autres aussi. Vu que lors du dernier podcast, vous vous plaignez de ne pas avoir assez de mails et de messages en répondeur, je me suis forcé à vous poser une question. Votre avis sur Freak Squill? Perso, j'aime beaucoup, forcément, sinon je me casserai pas les couilles à en parler. Et à part ça, je n'ai pas l'ambition de me faire le porte-parole des auditeurs, mais une masse silencieuse vous écoute sans pour autant se manifester. Ami de la phrase creuse, bonsoir. Et donc continuez comme ça. Donc bah déjà, merci David pour ton mail. Alors, Freak Squill, je me suis renseigné un peu parce que je ne connaissais pas du tout. Je sais pas si tu connais toi, Benny. Je sais pas si tu étais
Du
renseigné.
tout, du tout, du tout, du tout.
En fait, c'est une bande
Même pas de
dessinée.
nom, je ne connaissais pas.
C'est une bande dessinée qui sort aux éditions Ankama et qui parle d'une école de jeunes à pouvoir, en fait.
Alors, rectification, j'en ai entendu parler, effectivement. Mais je me rappelais plus du titre. D'accord. Et ça fait un peu penser. Enfin, moi, quand j'en ai entendu parler, je me suis dit, tiens, ils vont faire un petit peu peut-être un truc à la. Comment ça s'appelle? Chez Image. J'ai oublié le titre. On en parle tout. Morning Glories.
Oui, bah, ouais, enfin, là, c'est vraiment des jeunes à super pouvoir, quoi.
Ouais. Bah, c'est plutôt les X-Men, quoi. Voilà.
Ouais. Alors, j'ai regardé un petit peu ce que j'ai pu trouver sur Net, des pages, ce genre de choses. Ça a l'air pas trop mal. Le gros défaut à mon goût, c'est que ça lorgne trop vers le manga. Et
Ah bah oui, avec la base.
voilà, ça, c'est quelque chose que j'ai du mal. J'essaierai de voir si je peux y jeter un œil, mais donc voilà, je peux pas donner d'avis puisque je l'ai pas lu, donc ce serait pas judicieux de ma part de dire c'est bien ou c'est mauvais alors que je ne les ai pas lus. Donc désolé.
Ouais, moi aussi, oui, je ne peux pas trop. Peut-être qu'un jour on en parlera, mais en tout cas, pour le moment, avec tout ce qu'on a déjà à traiter, ce sera pas pour tout de suite en tout cas.
Sachant que ce n'est pas du comics à proprement parler, voilà, c'est vraiment loin de nos priorités.
Ouais, c'est vrai qu'en plus, il y a le French Comics aussi. Et pareil, quoi. C'est-à-dire que c'est toujours pareil, la question de savoir, mais est-ce du comics ou pas? Peut-être que ça aura lieu, peut-être qu'on fera un débat un jour là-dessus.
On a tellement d'idées de débat.
Non, il y a plus.
Un mail de Chaosstorm maintenant. Donc, rebonjour Chaosstorm, qui nous renvoie un mail. Bonjour à vous, j'enchaîne avec un mail pour une deuxième émission d'affilée, mais cette fois-ci Comic City. Peut-être ai-je ma chance d'y paraître. Bah oui. Oui, voilà. C'est que le dernier mail s'adressait plus au Comic City. On a pensé que ça c'était plus pour le Comic City. Pour le Comics Weekly, pardon. Pour moi, vu que c'était sur des questions par rapport à des sorties VF possibles, deux sorties VO existantes, on a préféré le traiter dans le Comics Weekly. Là, donc, pour Comic City, donc dans Comic City, j'avais gardé quelques questions sous le coude pour ne pas trop charger la mule lors de la première fois, mais puisque vous me proposez de vous réécrire, j'y vais de bon cœur. Alors tiens, concernant les sorties VF, croyez-vous qu'on verra Superman Earth-1 édité en France? Je pense que son format s'y prête bien. Bah, de toute façon, c'est clair et net que Panini ne va surtout pas passer à côté de Superman Earth-1 vu le carton monstrueux que ça a été aux États-Unis. Ce serait vraiment une énorme erreur de la part de ne pas le publier.
À mon avis, ils vont le sortir au format graphic novel.
Oui, bah oui, bien sûr. De toute façon, le format, ce sera directement, je pense, un Deluxe, quoi. Quelque chose comme ça, je sais pas trop les collections français, mais
Non, non, non,
un truc
non,
en
non, parce que
hardcover, quoi.
c'est pas assez épais pour un Deluxe. Ouais, ce sera du hardcore, mais peut-être qu'ils vont allonger, tu vois, un petit peu le format, le faire un peu plus gros pour vraiment sortir un espèce de graphic novel. Ce serait pas impossible.
Alors, il continue en nous disant, j'avais cru entendre parler d'une sortie librairie pour Green Lantern Rebirth. Savez-vous si c'est toujours d'actualité?
Alors, j'avais entendu ça pour 2011, et normalement, je pense que d'ici la fin de l'année, on devrait avoir un Deluxe avec les premiers Green Lantern. Et donc Green Lantern Rebirth.
Moi, je ne me suis pas renseigné sur le truc, mais oui, de toute façon, je ne crois pas avoir vu de choses annulées sur le Facebook de Panini, donc
J'avais vu
en tout
passer
cas pas
l'info,
pour ça.
je crois qu'il y avait même 3 Deluxe DC cette année. Alors, je sais pas si on en a déjà eu un, mais celui-là, j'avais vu ça, ouais, j'avais vu ça. Donc à voir si c'est annulé ou pas, quoi. Mais normalement, c'était en tout cas annoncé, il y a quelques mois.
De toute façon, on suivra, puis dès qu'on aura plus d'infos, on en parlera, bien évidemment.
Tout à fait, ouais.
Enfin, une review de Tony Chu, tome 2, est-elle prévue? Et sinon, un petit avis vite fait si vous l'avez lu.
Non,
Bah,
c'est pas prévu.
non, on a décidé de pas faire de review de Tony Chu 2, puisque, voilà, on
Parce
veut
que
pas.
c'est de la merde.
Comme dans le
D'ailleurs,
premier épisode, d'ailleurs.
ouais, voilà, exactement.
donc oui, bah, au milieu du podcast.
Voilà, le
Voilà.
plat de résistance, comme je disais.
Bonne chance pour Media Comics, un sacré projet que voilà. En tout cas, j'en céderai la sortie. Voilà, encore merci et à bientôt.
Quoi? C'est quoi ce truc?
Media Comics. Eh bien, renseignez-vous sur Facebook de Media Comics,
Oui,
justement.
enfin, renseignez-vous même sur les sites et où vous voulez.
Oui, c'est vrai que
Tapez,
Google est mieux.
googlisez, hein, googlez, je dis toujours googlisez. Googlez-le!
On dirait une incantation vaudou, c'est bizarre. Merci à toi Chaosstorm et on va passer au dernier mail de la sélection, enfin de la sélection des trois mails qu'on a reçus. Fais pas de sélection, on lit tout. Donc un mail de Vinsouz qui intitule son mail J'aime quand c'est dur. Et donc Benny à moitié fait une crise cardiaque en lisant le sujet
Ouais, je me
du
suis
mail.
dit, non mais à chaque fois c'est Claire qui nous transmet les mails. Et je me suis dit, non là quand même, il faut
Pourquoi tu
arrêter.
m'envoies du spam de
Oui, voilà,
vraiment?
c'est ça.
Je n'en ai pas besoin, arrête.
C'est ça. Oui, exactement. En plus, j'ai pas besoin de pilules pour ce genre de choses.
Donc, je vais lire le mail de Vinsouz. Bonjour, ça fait longtemps que je ne vous ai pas embêté, donc je vais y remédier très rapidement.
Merci.
En vous écoutant depuis pas mal de temps, j'ai remarqué chez vous un certain rejet de la plupart des comics qui sortent en librairie, notamment ceux qui ont déjà été publiés en kiosque. J'ai l'impression que bien souvent vous faites un rapport quantité-page-prix. Personnellement, j'achète le moins possible de comics en kiosque, car j'ai l'impression de lire sur du papier recyclé rempli de pubs, tout juste bon à se torcher le cul une fois lu. Désolé, je me lâche un peu. Non, non, mais t'as raison, vas-y, hein, faut pas hésiter. J'achète donc de façon presque forcée en kiosque quelques séries et crossovers d'essai, car c'est ceux qui ont le moins de chances d'être réédités en VF par Panini. J'accorde une grande importance à ma collection, et je pense qu'on est d'accord là-dessus, qu'un HC rend, enfin, qu'un hardcover, pour ceux qui ne comprendraient pas, rend quand même vachement mieux que du TPB dans nos bibliothèques. Donc, quand à chaque fois que je vous entends critiquer le prix des HC en les comparant au prix des TPB, ça m'énerve un peu, je prends vraiment plus de plaisir à lire de beaux ouvrages et de les mettre dans ma bibliothèque. Je conçois que pour des fans comme vous, les TPB sont obligatoires afin d'être à jour dans les parutions et aussi au niveau du porte-monnaie, mais je vous trouve dur sur les rééditions en HC, même si les prix sont élevés, ça permet quand même aux jeunes lecteurs de redécouvrir d'anciens crossovers ou runs qui sont devenus impossibles à récupérer, ou alors à des prix qui sont là démesurés sur des sites de vente en ligne. Voilà, un petit coup de gueule afin que l'on encourage quand même les rééditions HC qui sont pour moi un réel investissement dans une collection que je pourrais relire avec plaisir à l'inverse des TPB. Merci pour vos émissions, continuez comme ça. Ce n'est pas forcément un mail auquel vous devez répondre dans vos émissions car je pense que ça n'intéressera pas forcément les auditeurs, mais plutôt une remarque que je voulais vous faire. Donc, bah, si, on va y répondre de toute façon. On critique pas les HC pour le but de les critiquer. Déjà, enfin, on critique pas forcément toute la librairie. Dans le sens critiqué, je veux dire, on crachait dessus, quoi. Les HC, c'est bien, il y a un certain type de public pour les hardcovers et pour les rééditions. Nous, on a pris le parti de ne pas parler des rééditions, tout simplement parce qu'il y a déjà tellement de nouveautés à traiter tous les mois, que si en plus on parle de réédition, on vous fait des podcasts de 3h, 3h30 à chaque fois.
Ouais, donc, à la rigueur, peut-être un jour que Sam et Nono, nos rédacteurs vedettes, vont consacrer des Unspoken, non mais peut-être, vont consacrer des Unspoken à une éventuelle, à un éventuel hardcover VF d'un truc réédité, par exemple. Tout à l'heure on parlait de Green Lantern Rebirth. Si c'est réédité en hardcover, on ne le traitera pas dans Comic City puisqu'on en a déjà parlé. Enfin non, on n'en a pas parlé en l'occurrence, ça n'existait pas à l'époque. Mais je veux dire, c'est déjà sorti une première fois en kiosque. On va pas reparler de matériels qui ont déjà été lus et digérés par de nombreux lecteurs.
Alors, on n'exclut pas la possibilité de le faire. Il faudrait pour cela qu'on ait un mois qui soit vraiment peu riche en sorties. Et surtout des sorties de merde, quoi. Je veux dire, si on a, je sais pas moi, 5 ou 6 librairies sous le coude, et qu'en les lisant, on se dit à chaque fois c'est de la bouse, on va pas en parler, ou alors qu'on en a rien, on n'a rien à en dire du tout. Ça arrive aussi, il y a des choses des fois que l'on ne traite pas parce qu'on n'a rien à en dire. On n'a ni aimé, ni pas aimé, enfin voilà, si c'est pour dire ouais, moyen, mais puis rien d'autre. Je vois pas l'intérêt. Donc ouais. Voilà, si vraiment il y a des mois où on est en manque de publication, bien sûr on va les taper dans les rééditions. Mais c'est pour le moment jamais arrivé.
Non mais le truc aussi, c'est que les Deluxe, en l'occurrence, puisque c'est les plus belles rééditions, sont vraiment des rééditions, quoi. Il n'y a pas de nouveau matériel qui arrive directement en Deluxe dans cette gamme-là. Donc c'est pour ça qu'on en parle quasiment jamais. Et moi, par contre, je suis quelqu'un qui justement préfère avoir une lecture au format TPB souple que je peux lire dans mon lit qu'un Deluxe que je vais pas lire au pieu parce que c'est plus lourd déjà, hein, le format cartonné, et puis surtout il y a cette espèce de couverture que tu peux enlever que j'ai peur d'esquinter, de déchirer, donc moi ça me saoule de manipuler ce type de bouquin. Je comprends que ce soit plus beau, mais moi c'est vraiment le côté pratique que je recherche, et à la rigueur je préfère lire des comics au format kiosque ou alors au format 100% souple comme ça que je peux manipuler facilement, et c'est vraiment plus le contenu, la lecture qui m'intéresse que l'édition en fait. Les belles éditions, bah c'est bête mais moi je m'en fiche, quoi. Je d'ailleurs j'ai même pas une bibliothèque avec des trucs bien rangés qu'on voit comme ça, tout est dans des boîtes
que dans des long box chez Buddy, c'est que dans des long box.
C'est des long box puisque j'ai essentiellement du kiosque. J'ai de la librairie aussi, mais beaucoup moins. J'ai essentiellement du kiosque, donc du coup, ça se retrouve dans des longues box et ça fait vraiment studio de psychopathe avec des longues box à la Dexter. On se demande ce que je cache dedans. ça fait un petit peu le bureau de Fox Mulder. C'est les dossiers, les affaires non classées, quoi. Voilà.
Mais c'est vrai que je trouve que sur une bibliothèque, bien évidemment, les hardcovers sont super beaux, quoi. C'est y a quand même tout un travail, oui, qui est apporté à la maquette, oui, beaucoup plus que sur un TPB. Là encore, c'est pareil. Nous, enfin, on voit vraiment en termes de, c'est pas rapport quantité de pages pris, il y a ça qui joue. Mais enfin bon, quantité de pages, si c'est pour avoir, je sais pas moi, 200 pages pour 12 euros, mais 200 pages de merde, c'est pourri quoi. Je préfère avoir que 120 pages pour 12 euros, mais avec de la qualité. C'est plutôt nombre d'épisodes, qualité, prix. C'est ça le rapport. C'est un rapport triangulaire en fait.
Oui, non, mais il y a aussi le fait que, comme je disais, les éditions les mieux sont des choses que j'ai déjà lues en kiosque, donc je vais pas les reprendre, les Deluxe. C'est pour ça que j'achète très peu de Deluxe, parce que c'est des choses que j'ai déjà lues, et de surcroît, c'est vrai qu'il y a deux types de lecteurs. Il y a le lecteur qui veut se faire une belle bibliothèque, et le lecteur qui va juste lire pour lire des trucs qui l'intéressent, et finalement qui s'en fout de l'esthétisme comme moi, ou franchement mes bandes dessinées, du moment que je peux les ranger, du moment que j'ai de la place pour les ranger, je suis content. Voilà. En gros. Du moment que je peux lire, c'est bon, quoi.
Et
C'est tout
puis
ce que je
bon,
demande.
il y a l'argument prix aussi, qui faut pas oublier quand on est
Bien sûr.
des gros
Bien
gros gros
sûr.
lecteurs comme nous. Voilà, l'argent ne poussant pas sur les arbres encore, malheureusement. Faut que
Bah,
j'invente une formule d'ailleurs pour ça, un jour où j'aurai le temps.
c'est sûr que il vaut mieux
C'est vrai
lire
que.
en librairie, quoi. Lire,
Non,
je dis
en
inverse.
kiosque, oui, en
Lire en
kiosque.
kiosque, oui,
Ça revient
j'achète.
moins cher, oui.
Ben oui, enfin j'ai beaucoup plus de lectures chaque mois avec le kiosque, et j'achète peu de librairies, j'achète les librairies Delcourt, où j'achète les 100%. Donc ça, on reste quand même dans des prix entre 10 et 20 euros en moyenne. Ou bien alors, les plus chers que j'achète, c'est des bouquins comme Preacher, qui sont quand même à 25-26 euros. Voilà.
Y a les monsters aussi, ce genre de choses.
Ah oui, bah les monsters, c'est le plus cher qu'on puisse faire, effectivement, qu'on traite
29.
dans. Parce que c'est du matériel qui n'est pas réédité. C'est vraiment du matériel original, quoi.
Les
Qui sort
demandes.
directement sous ce format-là. C'est contraignant d'ailleurs. C'est pour ça que tous les monsters, je ne les prends pas. Parce qu'il y en a beaucoup qui sont pas forcément super utiles.
J'espère qu'on a répondu. Enfin, on n'est vraiment pas contre les hardcovers. Hein. Faut pas du tout penser qu'on est contre ça. Au contraire. Après, là où on gueule vraiment au niveau du prix, c'est quand quand Panini se fout royalement de notre gueule en sortant trois épisodes au prix de 15 euros. Dans des tout petits TPB en souple, ou même en dur. Enfin, je veux dire,
Ouais.
quand c'est trois inédits, même au format dur, que ce soit au format souple ou au format dur, de toute façon, ça n'a pas d'importance. 15 euros pour trois épisodes, 5 euros l'épisode, faut arrêter, quoi.
Ouais, mais c'est un peu le problème des éditions comme ça, avec un format un peu bâtard. Je veux dire, même Delcourt avec Le Fléau de Stephen King, je crois,
C'est pas
ne
Delcourt,
sort
c'est
pas.
Panini. C'est Panini.
Ah, c'est
Ah
Panini,
non,
Le
le
Fléau?
flé,
Non,
le
non,
non, le
non,
fléau, non,
non.
pardon, je pensais à la Tour Sombre, excuse-moi.
Le Fléau,
Tour Sombre.
justement, il y a des épisodes, je crois, qui sont, comment dire, coupés en deux, du coup, pour faire un format plus grand et le présenter à un prix qui, un format, voilà, assez bâtard entre le franco-belge et puis le graphic novel, quoi. Et c'est dommage. Et c'est comme Last Days of American Crime, qui était sorti chez aux éditions Emmanuel Proust, je crois, non?
Oui, c'est ça, Emmanuel Proust. Je cherchais
Emmanuel
le nom.
Proust, pareil. C'est peut-être une bonne série. Mais moi j'ai pas envie de la lire en français parce que pour moi c'est trop cher d'avoir les trois pour je sais plus, ça fait 45 euros quasiment, non?
Ouais, c'est ça.
45 euros pour
Quelque chose
lire
comme ça, ouais.
le total de la série. Alors non, merci quoi, je préfère prendre des magazines kiosques pour ce prix-là, pour lire plus de choses et à un prix nettement inférieur. Je vais pas dépenser 45 euros en kiosque, quoi.
Chez Panini, on a vu le cas bah, le mois dernier de Superman Secret Origins.
Encore ça va, parce que les épisodes sont quand même assez épais et puis c'est 11 euros, je crois.
Ouais, enfin, trois épisodes, 11 euros, quoi. Merde. On
Ah
a
oui,
vu
mais
le
c'est des
cas
doubles.
avec. Ils sont pas vraiment, vraiment doubles, hein. Ils font quoi? 28 pages. Voilà, quoi.
Ouais. Enfin, ça va encore. Je pense c'est pas le pire, quoi, je
On avait
trouve.
eu l'île du Docteur Mayhew
Ah
pour
oui, ça
Batman.
oui. Ça oui, ça, parce qu'ils avaient
Trois
fait
épisodes de Batman pour 12 euros. Non, quoi. Non. Je suis
pour
désolé, non.
15. Pour 15 euros, ils avaient
C'était
fait du
plus que 15.
hardcover. Ouais.
Non.
Non, là c'était vraiment l'arnaque. Là oui, là je suis entièrement d'accord. Mais si tu veux, le Batman Secret Origin, en termes de pagination, ça fait à peu près le Spider-Man noir qui était à 10 euros, donc bon,
Ouais,
1
mais
euro
bon,
de plus.
voilà, 10 euros, c'est mathématique. Et puis, t'as toute une histoire complète. T'es pas obligé d'acheter le tome 2.
Ouais. Non,
Il
c'est sûr, bien
y a tout
sûr.
ça qui joue. Il hein. y a tout ça qui joue.
Enfin, s'il y avait eu la complète d'Origin, il aurait été à 16 euros, quoi, en souple.
Oui, mais voilà, mais t'avais la complète.
Oui, bien sûr.
Tu parlais du fléau, il y a aussi la Tour Sombre chez Panini qui sort dans des volumes hors de prix, quoi. Je trouve que c'est hors de prix pour trois épisodes.
Je suis
Trois
passé.
épisodes
C'est
au-delà de
le
10 euros,
format
moi ça
bâtard. C'est le format.
m'arrache, ça m'arrache le cul complètement. D'ailleurs, je ne peux plus m'asseoir.
Bon, eh bien, tu termines l'épisode debout alors, puisque c'est terminé, là, je pense.
Ouais, donc, ben voilà, Vinsouz, j'espère qu'on a clarifié un petit peu notre situation. On n'est pas du tout contre les rééditions, c'est juste que on a pris le parti de pas en parler, en fait, puisque c'est pas du matériel inédit et qu'il y a vraiment tellement de choses nouvelles que on préfère se concentrer sur les nouveautés.
Voilà,
mais,
exactement.
Comme je dis, on n'exclut pas de faire du matériel ancien, hardcover ou non, hein, d'ailleurs, mais si jamais il y a moins d'actualité, évidemment...
C'est pour ça il y avait quelqu'un qui attendait notre review de Superman, All-Star Superman. Et pareil, comme c'est sorti en kiosque déjà, on va pas le traiter, on va pas le faire la review en du deluxe. Bon.
Donc merci à Vinsouz, Chaosstorm et Wazaman de nous avoir écrit. Ça nous fait vraiment plaisir.
Non pas Wazaman, Wazaman.
Oui, c'est vrai. Ça nous fait vraiment plaisir de recevoir des mails à chaque fois et vous nous posez des questions, vous nous demandez notre avis ou même que vous venez nous critiquer un petit peu quand vous comprenez pas forcément notre choix. On est là aussi pour y répondre et ça nous dérange pas, au contraire.
Je veux dire, j'ai mané ton B. BSN Bureau.
Donc merci à vous trois et puis merci à tous les auditeurs qui continuent de nous suivre. Vous pouvez
qui nous ont écoutés jusque là. C'est bien.
Vous pouvez nous retrouver bien évidemment sur le site, sur Facebook, sur Twitter, tous les anciens, enfin pas tous les anciens épisodes, les 50 derniers anciens épisodes sur iTunes, le reste vous les trouvez sur le site.
Vous les trouvez sur Cable Chronicles.
Aussi, oui.
Et vous les trouvez en streaming, vous pouvez les télécharger, bref, vous pouvez faire ce que vous voulez en plus maintenant avec les Comic City. Les écouter où vous voulez en plus.
C'était le but du podcast, à la base.
Voilà, c'est beau.
Et puis, vu qu'on a bien dépassé sur le temps, on va pas traîner trop et on se dit donc à dans 15 jours pour la fin du mois du kiosque de la librairie au programme, tout ça.
Oui.
Comme d'habitude.
Allez, ciao à tous.
À bientôt.